Les ateliers vélo, un service à l'intersection des territoires et des publics. Table ronde enregistrée à l'hôtel de ville de Grenoble le 21 avril 2023 durant les 15e rencontres de l'eurocyclage.
Avec aussi des opportunités, puisque quand vous avez ces merveilleuses quatre voies, on peut prendre une voie pour faire une jolie bidirectionnelle, prendre deux voies pour faire des transports en commun. Donc c'est aussi cet héritage une source d'opportunités, en tout cas pour nous. Mais en tout cas, c'est une transmission et un héritage qui est dans laquelle il faut se penser, de même que sur les piétonnisations, parmi les premières piétonnisations en France. Il y a la place Grenette avec un adjoint au maire d'Hubert Dubedou qui est encore en vie et avec des tensions et des conflits parce que autour de l'espace public, il y a des conflits d'usage, il y a des tensions, il y a différentes perspectives, des conflits dans l'usage dans le temps, dans l'usage géographique et dans l'usage du genre aussi dans l'espace public. Donc beaucoup de conflits qui se mêlent, mais finalement c'est une vie commune et une vie collective et c'est pour ça que nous avons fait le choix de la reconquête de cet espace public comme un enjeu. Un enjeu pour la végétalisation, un enjeu pour la place du piéton, un enjeu pour la place du vélo, un enjeu pour les réflexions autour du genre, un enjeu pour chasser, essayer de faire reculer la publicité, pour se réapproprier ce lieu et pour pouvoir y avoir des conflits d'usage, parce que la démocratie, c'est aussi des perspectives et des conflits d'usage. Et donc, évidemment, dans cette bascule et cette réflexion sur l'espace public, le vélo a une place forte. Et donc, on est très heureux d'accueillir le recyclage ici pendant 3 jours. Bravo pour cette organisation. Bravo aussi à la Clavette pour ce travail de réseau. Il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de partage, beaucoup de moments de convivialité et de joie. Pour Grenoble, qui a été choisi par la FUB comme capitale du vélo ces 3 dernières années, évidemment, on est heureux de vous accueillir ici. Mais cette perspective d'être capitale du vélo, on ne la regarde pas comme un aboutissement, on la regarde plutôt juste comme l'amorce d'un chemin. On avait pour objectif de tripler la part modale du vélo. On y arrive petit à petit, mais évidemment, ce qu'on regarde, c'est plutôt des villes comme Copenhague, où là, on est, ils sont très très loin devant, et pourtant, continuent aussi là-bas les conflits sur l'usage de l'espace public, à chaque fois qu'ils font des nouvelles répartitions, et donc c'est intéressant, en tout cas pour moi, élu, de se dire que même quand on est à plus de 60% de trajets domicile-travail fait en vélo, chaque nouvel aménagement urbain génère des conflits, des tensions, des menaces de mort sur le maire en charge de cela, etc. Donc ça crée effectivement du débat avec toute cette vitalité qui montre qu'on est à des points qui sont sensibles. Et puis, pour que ça marche, le vélo, on essaie de travailler sur 3 axes, évidemment. La question des infrastructures, où nous avons des objectifs pour ce mandat. Alors, je laisserai la vice-présidente du SMAC parler des objectifs larges, qui sont extrêmement importants. Là aussi, on regarde ce qui se fait en Allemagne, où les distances de 20-30 km sont très facilement avalables en vélo, et nous, on continue d'avoir aujourd'hui un peu de mal. À un moment, on en aurait bien besoin, évidemment, pour les questions de coût de l'énergie, pour les questions de pollution, pour les questions de gaz à effet de serre. Donc, on regarde de ce côté-là. La question des infrastructures avec, à l'intérieur de la ville, un double objectif du maillage de quartiers et des connexions, notamment des pénétrantes depuis les quartiers populaires, l'Abbaye à travers l'avenue Jeanne d'Arc, Tesserre avec le Jean Perrault, Mistral avec Rhin et Danube. Donc une volonté de continuer à irriguer un réseau qui, sur cette première phase, qui est une phase d'approche, a amené une vraie qualité de déplacement, une vraie hausse de fréquentation, une vraie sécurisation des parcours, des changements de pratiques qui font que beaucoup de gens se mettent au vélo, mais aussi que des cyclistes, moi compris, font des détours pour utiliser ces axes à vélo parce que finalement, ça vaut la peine de faire un petit détour pour rouler dans des bonnes conditions. Donc la question des infrastructures est importante. La question de la pratique du vélo et du savoir rouler est majeure. Donc, je salue la DTC qui est là, puisque le nombre de personnes qui suivent les stages de remise en selle a fait x5 dans ces dernières années. Donc, c'est un vrai succès. qu'il faut continuer de promouvoir. Donc on lance l'école municipale du vélo. Je salue là Gilles Namur et Alain Confesson, et Gilles notamment qui est en charge de cette question pour l'équipe municipale. Donc, notamment que tous les CM2 puissent se débrouiller à vélo et donc puissent aller au collège à vélo. On voit qu'il y a une rupture, clairement, sur la partie collège, et donc c'est un de nos objectifs. Une fois qu'on a fait des infrastructures et du savoir rouler, il faut des vélos. Voilà. Et donc, dans ces vélos, je crois que le travail que vous conduisez sur le recyclage et l'économie du vélo est majeur, parce que c'est un marché en expansion. On est passé de à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2010 à 2 milliards en 2020. Au-delà de cette pratique du vélo, on doit évidemment y porter ce qui est important pour nous en termes de valeur. La question de la localisation des activités, la question des conditions sociales dans lesquelles sont faites ces activités. Aujourd'hui, le déficit commercial, rien qu'avec la Chine, c'est 40 millions d'euros. C'est plus de 60% des cadres de vélo qui sont faits en Chine aujourd'hui. Il y a vraiment là, autour du recyclage, on peut dire que même si pour l'instant les sources sont encore vraiment problématiques, derrière on peut faire tourner, recycler, et que derrière cette dimension, des valeurs fortes pour nous, que ce soit le partage, la libération par les savoir-faire, la transmission, la joie et la convivialité aussi qui sont majeures. Tout ça se retrouve dans la pratique du vélo et dans le recyclage. Donc il y a une économie qui correspond à des critères sociaux, des critères environnementaux, et qui permet de mêler les enjeux de déplacement, les enjeux de coûts et de capacité à vivre, les enjeux de lutte contre la pollution de l'air, les enjeux de réduction des gaz à effet de serre, avec les dimensions de notre vie quotidienne qui sont extrêmement importantes. Donc pour ça, je crois que nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ici. Nous espérons que cette activité, avec une vue globale et systémique du vélo, continuera de se propager dans la joie, la transmission et l'enthousiasme. Sur cette économie du recyclage, j'imagine que la vice-présidente en parlera, mais la métropole et le SMAG mettent en place d'ailleurs des aides au financement des vélos et qui peuvent atteindre, sous condition de revenus, peuvent atteindre 90% de la valeur des vélos pour des vélos recyclés. Alors même si ça s'adresse plutôt à des vélocistes pour l'instant, il n'empêche que notre objectif est aussi de voir comment, avec des moyens publics, on peut stimuler le développement de cette activité. Donc ça fait des objectifs qui, politiquement, pour nous, sont au cœur de notre vie quotidienne. On pense logement, déplacement, alimentation, santé et émancipation, en plus de la partie mix énergétique qui, à l'échelle locale, est plus consensuelle, sans doute. Donc c'est un vecteur puissant de transformation de la société et d'une attaque frontale d'un modèle capitaliste néolibéral qui continue de pousser les curseurs toujours plus loin. On est passé en France de 20 millions à 40 millions de voitures, 20 millions en 80, 40 millions en 2021, donc on a fait x2, plus 30% sur le poids, plus 20% sur la puissance, parce qu'évidemment on a besoin de voitures de plus en plus puissantes, 100 puces de microélectronique. Je dis ça parce que nous avons des sujets ici autour de l'usage des puces et de la connexion à l'usage de l'eau, 100 puces par voiture, fois 100 millions à l'échelle planétaire, donc c'est aujourd'hui 10 milliards de puces qui sont balancées dans les voitures. Et je terminerai là-dessus parce que le partage dans le recyclage, le travail autour du vélo, retrouve dans cette convivialité, dans cette transmission, dans ce savoir-faire, aussi le plaisir d'avoir les mains dans le cambouis, le plaisir de la mécanique, qui était un vrai plaisir de tous ceux qui sont passionnés d'automobile, mais un plaisir dont ils sont de plus en plus dépossédés, parce que maintenant, pour réparer une voiture, on ouvre une mallette, on la branche, on regarde quel est le morceau qui merdoit, et en fait, il y a de moins en moins de mécanique, et de moins en moins de plaisir pour la mécanique, et je crois que les êtres humains sont aussi faits de chair et d'os, et donc le contact avec la matière est important, et le contact avec le vélo, avec le cambouis, avec la mécanique est important, et donc pour ça aussi, Merci, parce que nous avons besoin d'ancrer notre mode de vie dans la matière et la transformation de la matière. On ne pense pas que tout ça vient du ciel et que notre vie doit se résumer à une vie numérique qui est bien physique à bien des endroits, mais qui peut se dématérialiser dans nos cerveaux. Donc pour ça aussi, je crois que nous avons un point d'ancrage solide avec le recyclage du vélo. Pour tout ça, on est ravis de vous accueillir dans la joie et l'enthousiasme. Nous continuons à pousser dans cette dimension-là. Nous savons qu'il y a des enjeux extrêmement forts, une détermination forte aussi de notre côté, et on espère que voilà, nous continuerons à avoir des alliances objectives d'intérêt pour continuer à promouvoir des objectifs largement partagés avec différentes casquettes. Merci beaucoup.
Alors moi j'ai un texte parce que je n'ai pas l'habitude. Bonjour à toutes et à tous. En tant que membre de la direction collégiale de la Clavette grenobloise et au nom de tous les nombreux bénévoles qui ont œuvré avec toute leur énergie, je suis honoré d'ouvrir ces 15e rencontres nationales de le recyclage, le réseau national des ateliers vélos participatifs et solidaires. Depuis Dijon en 2008, à Moulins l'année dernière, en passant par Caen en 2015, ces rencontres ont lieu chaque année dans une ville différente. Et c'est une grande joie pour les ateliers de la Clavette grenobloise de les accueillir ici pour la première fois. Mais qu'est-ce que la Clavette, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est une toute petite pièce fondamentale qui assure le fonctionnement dans la transmission de nos vélos anciens si chers à nos ateliers. C'est également la coordination locale des ateliers vélos participatifs solidaires de l'agglomération. Il y en a aussi, il y en a une à Grenoble, Nancy, Paris, Saint-Étienne, Lyon, et on attend que ça se développe encore un peu plus. La Clavette grenobloise regroupe aujourd'hui une vingtaine d'ateliers d'autoréparation indépendants, répartis sur l'aire grenobloise, sur le territoire du SMAG, concentrés quand même essentiellement dans la cuvette grenobloise, et qui va de Voiron à Visil et en nord à Pontcharra. Son origine, à partir de 2014, c'est un essaimage provenant de l'atelier historique le plus ancien de France, qui est l'atelier Un petit vélo dans la tête. Bravo à eux et merci à eux. Aujourd'hui, fort du soutien institutionnel de Grenoble-Alpes Métropole puis du SMAC depuis 2020, Grenoble et ses alentours forment le bassin de vie en France qui compte le plus d'ateliers vélos participatifs et solidaires par habitant. Et on est encore largement devant tous les autres. Mais on attend que la France se lève. Nos trois piliers sont porter une dynamique d'essaimage en vue d'enrichir le maillage territorial au plus près des habitants, animer la coopération inter-atelier menant à des actions communes souvent trop lourdes pour un seul atelier, assurer la représentation commune des ateliers auprès de tous nos partenaires. La Clavette grenobloise organise ses rencontres annuelles avec le recyclage, avec qui elle a toujours travaillé en étroite coopération. Et elle tient ici à remercier ses partenaires institutionnels sans qui cet événement n'aurait jamais pu se tenir de cette façon. Nous tenons donc à remercier la ville de Grenoble qui nous accueille et qui nous accueille aujourd'hui et nous met à disposition ses équipements. Grenoble-Alpes Métropole pour son aide financière importante. Et enfin, nous tenons à remercier le SMAC pour le partenariat historique de fonctionnement et plus particulièrement cette année pour la bonne tenue de ces rencontres. Nous vous remercions d'être présents et présentes aujourd'hui et nous vous souhaitons une belle conférence animée par Florence de l'Eurocyclage. Après ce temps de travail sérieux, nous vous convions demain, 17h30, à la Flamme Olympique pour une vélorution conviviale. Si vous voulez venir, mais ne pas être reconnu, ça tombe bien, le déguisement sera fortement conseillé.
Coucou. Ça fait super plaisir de vous voir en si grand nombre. Donc merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement ce jour pour cette conférence. Alors dans la série des remerciements, je remercie également la mairie de Grenoble et le SMAG. Également Jean Roch d'avoir aussi bien parler de le recyclage et de ces rencontres nationales. Et donc, merci à la clavette locale de les accueillir pour cette 15e édition. Enfin, je remercie également nos deux partenaires nationaux historiques qui soutiennent également cette conférence, donc l'ADEME et également le ministère de la Transition écologique. J'adresse aussi une petite dédicace technique à la personne qui enregistre cette chouette conférence que vous pourrez réécouter lors des longs soirs d'hiver. Donc, c'est Xavier qui est au fond de la salle. Merci pour cet enregistrement. Après avoir enfilé les quelques perles de rigueur, je vais filer quelques métaphores en guise d'introduction. Le recyclage, qu'est-ce que c'est ? C'est cet ovni, ce tabouret à trois pieds. Donc trois pieds, un premier pour la mobilité, une mobilité sobre, décarbonée, joyeuse, qui nous réancre dans le présent. Un deuxième pied pour le réemploi dans cette société du tout jetable, dans les ateliers vélos. On réinvente au quotidien l'économie circulaire, sans grand blabla, mais avec beaucoup de pragmatisme et de conviction. Enfin, le dernier pied, qui est très important pour bon nombre d'entre nous, c'est l'éducation populaire. C'est le fait de démocratiser la mécanique vélo, de la rendre accessible à toutes et tous par des transferts de compétences au quotidien dans les ateliers vélo du réseau. Deuxième petite métaphore, c'est celle du berceau. Donc le berceau, c'est quelque chose qui accueille les nouveau-nés. Et c'est vraiment avec une certaine émotion que je parle là à Grenoble ce jour. Alors Jean Roch l'a souligné en évoquant l'année 1994 avec le petit vélo dans la tête. Eh bien, cette même année naissaient également deux autres ateliers vélo historiques, toujours en région Rhône-Alpes, donc à Lyon et à Villeurbanne, le Recycleur et puis les Bikers de l'INSA. Et tout ça pour dire que la région Rhône-Alpes, c'est vraiment le berceau de notre réseau. Et c'est pas pour rien que notre tête de réseau a eu alternativement son siège à Lyon et à Grenoble, où il est aujourd'hui encore. Est-ce que je m'étais mis une autre petite métaphore ? Mais oui, pour faire le lien avec le titre de cette conférence, que vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas avoir saisi tellement les termes étaient un peu alambiqués, un peu généraux. Donc, les ateliers vélos, un service à la mobilité, à l'intersection des territoires et des publics. Eh bien, je vais reprendre une métaphore géométrique. On est à l'opposé de la ligne droite, cette ligne où les véhicules avancent à grande vitesse. L'intersection, c'est des chemins qui se croisent, des droites qui convergent, ça se critique. Je vais reprendre d'ailleurs la métaphore de M. Piolle sur le conflit. Dans les ateliers, on est à l'intersection de plein de choses. On n'est pas toujours d'accord, il y a une pluralité de points de vue. Et c'est justement cette richesse, tout ce fourmillement, qui fait qu'on croit à ces projets-là. Et je finirai, avant de passer la parole à Coralie Bourdelin du SMAG, par vous dire qu'à travers un projet associatif ambitieux, les ateliers vélos de le recyclage montrent qu'une autre société est vraiment possible et que les ateliers participatifs et solidaires, ils participent vraiment à cette construction au quotidien. Et c'est super important de faire vivre des utopies, d'essayer de proposer d'autres modèles, parce qu'on est dans une période où on en a besoin. Voilà. Coralie, je vous laisse la suite.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Moi aussi, je suis ravie d'être descendue de ma montagne pour venir à Grenoble. Merci, Monsieur le maire, de nous accueillir et merci d'accueillir, du coup, cette belle organisation des 15e rencontre qui vous réunit aujourd'hui. Donc, je suis là en tant que représentante du SMAG. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas du territoire, qu'est-ce que le SMAG ? Le SMAG, c'est le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Il a été créé en 2020, donc il est récent, puisque c'est le mariage, j'ai envie de dire, pour gérer les mobilités entre Grenoble-Alpes-Métropole, le territoire du Grésivaudan, qui est donc, je suis élue sur le Grésivaudan en ce qui me concerne, et puis le territoire du pays Voironnais, et on a décidé de se regrouper pour gérer les mobilités, et toutes les mobilités, à ce niveau-là, puisque ça nous paraît bien évidemment plus cohérent, parce que des frontières administratives, quand on veut gérer des mobilités, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on travaille, ces trois collectivités travaillent ensemble, et il y a également le département qui travaille avec nous. Donc on est là pour proposer, bien évidemment, le but c'est de proposer une alternative fiable à la voiture, puisque je pense qu'on est tous convaincus ici qu'il faut arriver à faire baisser la part d'autosolisme sur notre territoire. Et donc on propose tous les services, que ce soit bien évidemment les services de transport en commun, mais également de covoiturage, d'autopartage, et on favorise également la pratique du vélo, bien évidemment, sur notre territoire. Tout cela, on le fait également par une politique tarifaire qui est dans une triple logique de complémentarité, de multimodalité et de solidarité, parce que c'est également très important. Donc, concernant, on en parlait tout à l'heure, il y a des objectifs qui sont beaucoup plus... des réalisations dans d'autres pays qui sont beaucoup plus importantes que chez nous. Mais enfin, sur Grenoble-Alpes-Métropole, parce que je n'ai pas tout à fait les données consolidées au niveau du territoire, mais il y a 14% quand même des déplacements domicile-travail qui seront à vélo et 9% à pied. On est tous convaincus ici qu'il faut bien évidemment arriver à qu'on a une marge de progression sur l'utilisation du vélo. Et du coup, au niveau du SMAG, notre priorité, c'est effectivement d'y arriver. Alors, Monsieur le maire parlait effectivement du développement des aménagements. Ils sont déjà bien évidemment très importants sur ce qui est là, sur Grenoble et sur la métropole de Grenoble. Mais il faut bien évidemment les étendre, parce que quand on échange avec des élus, avec des associations de vélos, de cyclistes, ce qui pose le plus gros frein à l'utilisation du vélo, c'est quand les infrastructures ne sont pas là, ne sont pas sécurisées. Et du coup, si on veut arriver à vraiment passer un cap, il faut pouvoir aménager plus de pistes en toute sécurité. Donc, on travaille bien évidemment au niveau du SMAG. On travaille actuellement sur notre schéma directeur cycle au niveau de notre territoire, donc sur Grenoble-Alpes-Métropole et sur le Grésivaudan. Alors, il existait déjà sur Grenoble-Alpes-Métropole, mais pas encore vraiment formalisé au niveau du Grésivaudan. Donc, c'est un gros travail qu'on lance. On met en place... Alors là aussi, je parle beaucoup du Grésivaudan, mais après tout, c'est de là que je viens. Et il y a beaucoup d'aménagements qui sont en cours. Entre autres, nous, on est une vallée... tout en long, avec des montagnes de chaque côté, puisqu'on a Belledonne d'un côté et la Chartreuse de l'autre. Et on a, au milieu de notre territoire, trois obstacles, qui sont l'autoroute, l'Isère et la voie ferrée. Donc, pour des cyclistes, c'est un peu compliqué de passer au-dessus de tout ça. Donc, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle nos traversées de rive, pour arriver tout au long de notre vallée, à faire en sorte que les cyclistes puissent traverser notre vallée dans de meilleures conditions. Au niveau du SMAG, bien évidemment, on propose un service de location de vélos qui est très important, donc là qui existait avant la création du SMAG, du temps du SMTC. Et on arrive actuellement à 10 000 vélos en location. Et on propose à la location tout type de vélo, vélo classique, vélo assistance électrique, vélo cargo, etc. Actuellement, on réalise des tests, on propose des tests de VAE d'un mois, c'est-à-dire qu'on tourne sur toutes les communes de la métro et du Grésivaudan. On propose, c'est limité à 10, parce que bon, c'est des tests de VAE, donc vu le coût des VAE, on ne peut pas non plus multiplier, mais c'est très très prisé, ça marche très bien. Et donc les gens partent avec un vélo électrique pour un mois, ils le testent, ils le ramènent, on fait un bilan avec eux, et soit après ils peuvent éventuellement louer des vélos, puisqu'on en propose des vélos électriques s'ils veulent continuer, ou s'ils veulent basculer sur l'achat, on peut également les conseiller. Donc c'est un test qui est vraiment intéressant et qui marche très très bien. Que dire d'autre ? Sinon qu'effectivement on a un partenariat historique avec la Clavette qui est là depuis plus de 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, et notre travail avec eux est vraiment, on est très satisfait du travail qu'on fait avec la Clavette. Étant donné que vous en parliez tout à l'heure, il y a vraiment un nombre d'ateliers qui a été multiplié de façon significative. Et comme on disait tout à l'heure tous les deux, le champ, l'aire de jeu s'étant agrandi, on ne doute pas qu'il y aura d'autres ateliers qui vont naître sur le territoire. Et donc on continuera à vous accompagner, puisqu'en termes financiers, parce qu'il faut aussi en parler, donc on a une convention avec la Clavette à hauteur de 44 000 euros cette année, enfin qui est reconduite depuis plusieurs années, et puis pour aider effectivement à l'organisation de votre 15e journée, on a également apporté un financement de 10 000 euros. Voilà, on fait également, j'ai envie aussi de mettre l'accent sur quelque chose qui est aussi joyeux, comme vous disiez, récréatif, et qui sont les fêtes du vélo qui ont lieu au mois de juin, entre mai et juin, sur notre territoire tous les ans. On propose différentes animations pour arriver à amener plus de gens à faire du vélo, donc que ce soit des escape games, des animations dans les écoles, des balades en VAE. Enfin, donc là, cette année, ce sera du 22 mai au 4 juin. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, si ce n'est qu'on vient de lancer au niveau du SMAG également une campagne de communication pour inciter les gens à marcher ou à prendre le vélo, puisque je pense qu'on en est tous convaincus, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, et ce sera beaucoup plus respectueux pour notre planète. Et ça, on est tous conscients qu'il faut également faire le maximum à ce niveau-là. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end et une belle vélorution demain, si je ne peux pas me joindre à vous. Et voilà, merci à tous.
Je vais inviter les témoins de la conférence à prendre place sur les sièges. Vous les présentez, ensuite nous laisserons l'introduction à Margot, notre témoin recherche de cette conférence. Alors, 6 témoins aujourd'hui que je vais vous présenter. Avant cela, vous dire que les documents dont on va parler sont à disposition sur la petite table dans l'entrée. N'hésitez pas à aller en chercher, à les parcourir. Je vais commencer à ma droite par Dominique Carnot, qui nous vient de région parisienne, d'un atelier vélo qui s'appelle la Cyclo-Officine de Pantin. Alors, Dominique, coordinatrice d'atelier, nous parlera notamment des ateliers de rue, de la vélo-école et des stages de mécanique qui sont animés à la Cyclo-Officine de Pantin. Merci d'avoir fait le déplacement. Toujours sur la région parisienne, nous accueillons également Sylvain Rotillon, qui nous vient de la DGITM, le ministère de la Transition écologique. Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à la conférence. Géographe de parcours initial, tu as à la fois travaillé en collectivité locale mais aussi en service déconcentré de l'État. Tu as travaillé sur plusieurs thématiques, notamment la question de l'eau, la participation citoyenne et la mobilité depuis 2 ans. Je poursuis en revenant un petit peu plus sur le territoire local qui nous accueille pour ces 15e rencontres avec du coup Damien. Je me perds dans les pages. Donc Damien Cottereau pour le SMAG. Damien, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Du coup, tu es notre témoin collectivité territoriale. Tu travailles au sein de l'unité vélo du SMAG. Tu suis la convention avec la clavette depuis son historique, qui initialement était portée par le réseau de le recyclage, avant que la clavette se crée. Et pour moi, tu es un peu la personne qui a la vue d'ensemble sur l'écosystème vélo, sur le territoire. Voilà. Je poursuis sur Grenoble avec Marie Ménager. Marie, merci en tant qu'administratrice de la clavette de venir nous apporter aujourd'hui ce regard de clavette de terrain. Marie, toi, tu es investie dans la clavette grenobloise depuis 2017 en tant qu'administratrice. Tu es bénévole d'atelier depuis 2015. Et chez toi, ce qui m'a toujours marquée, c'est ton attention à la pédagogie, ton outillage aussi en matière d'éducation populaire. Et tu l'as peut-être oublié, mais il y a 10 ans, tu m'as initiée au Théâtre Forum. Donc je t'en suis très reconnaissante. Voilà. C'est l'occasion de se rappeler un peu d'histoire, les conférences et les rencontres de le recyclage. Quittons un instant l'Isère, restons toujours dans cette belle région Auvergne-Rhône-Alpes et basculons en Ardèche. Alors, en Ardèche, il y a Florence. En plus d'être une homonyme, c'est une personne de grand talent. Alors, avec Florence, on s'est rencontrés en 2021 sur une formation de le recyclage en Ardèche, toujours. Et Florence, toi, tu vis dans un... Alors, je ne sais pas si on dit un village ou une ville, tu nous le diras. Une petite ville de 3000 habitants qui s'appelle Les Vences, au cœur de l'Ardèche.
Et au sein d'Evance, tu fais partie du groupe des fondateurs et des fondatrices qui a créé un atelier vélo, l'atelier Pignon Libre. Magnifique nom, très chouette projet. Tu y es salarié depuis un an. Et toi, tu nous parleras plus particulièrement des ateliers vélo en territoire peu dense. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je me tourne enfin à ma gauche, auprès de Margot. Alors, je brasse beaucoup mes notes. C'est sans doute un peu l'émotion d'être ici parmi vous. Alors, Margot, à bord de Châtillon, c'est super chouette de t'avoir à nos côtés avec cette casquette de recherche. Souvent pris dans notre quotidien, dans le stock des pièces à trier, les carcasses de vélo, on prend rarement de la hauteur sur ce qui se fait, sur ce qui se crée dans les ateliers d'autoréparation et ce que veut dire la mécanique vélo, la réparation des vélos et toutes les formes que peut prendre la réparation des vélos. Toi, justement, Margot, tu as travaillé sur une thèse et tu vas nous apporter aujourd'hui un peu de hauteur, un peu de concept, un peu de regard analytique et critique et c'est précieux. Je te remercie vraiment et je te laisse le micro pour introduire cette conférence.
Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de pouvoir parler de mes recherches ici. J'ai effectivement passé 5 ans à effectuer une thèse sur la réparation de vélos, sur les pratiques de réparation, avec une approche comparative entre la ville de Lyon, où j'habite, et celle de Melbourne en Australie. Et j'ai beaucoup utilisé le temps que j'ai passé dans les ateliers de le recyclage pour rédiger ce travail. Et je pensais que c'était important que je puisse partager auprès de vous aussi les choses que j'ai pu découvrir, développer, et dont certaines que vous connaissez probablement déjà, mais ça fait jamais de mal de rappeler les bases. Un premier travail que j'ai fait, c'est me demander un peu qu'est-ce que c'est vraiment que la réparation. La réparation, c'est quelque chose, toutes les personnes ici, je pense, sont convaincues que c'est extrêmement important. On a déjà eu beaucoup de témoignages à ce sujet des institutions ou des ateliers. Mais ce n'est pas vraiment au centre des études sur les transports ou la mobilité. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, de ramener un peu la centralité de la réparation. Et il existe un article très intéressant qui montre que dès qu'on commence à s'intéresser à la réparation, on va voir les choses extrêmement différemment. Donc tout peut être considéré soit comme un objet comme ça qui est là, ou comme le résultat d'un processus de forme, de flux, d'une part de dégradation et de l'autre de réparation. Donc votre vélo, ça peut être un vélo, mais ça peut aussi être vu comme le résultat des efforts que vous avez passés à le maintenir, le résultat de la boue qu'il a traversée, etc. Et donc je pense que quand on commence à penser à la réparation, on transforme la manière dont on pense aux choses en général, et on les voit comme la résultante de ces flux. Donc ça, c'est une chose que je voulais mettre en avant. Ce qu'on sait sur la réparation et l'entretien, c'est que c'est une tâche qui est souvent considérée comme dégradante, peu valorisée socialement. Typiquement, le personnel de ménage fait un travail d'entretien incroyable et ça fait partie des personnels les moins valorisés socialement. On sait qu'aux États-Unis aussi, il y a un sous-investissement qui a fait scandale dans l'entretien des infrastructures, les ponts s'effondrent, les routes sont dégradées, et on se rend compte qu'il existe une obsession, notamment dans les politiques publiques, pour l'innovation et la création de nouvelles choses, et qu'on néglige très souvent leur entretien. Et donc souvent les subventions vont être orientées vers les nouvelles choses, alors que celles existantes sont un peu laissées à elles-mêmes. Pourtant, on sait que les politiques publiques qui sont basées sur l'entretien, sur la continuation, sur l'amélioration des choses qui existent, peuvent être très efficaces. Et il y a un autre article très intéressant qui montre que se concentrer sur le report modal, sur le changement, essayer de convaincre les automobilistes de faire du vélo, ça peut être des politiques très très peu efficaces en comparaison avec améliorer les conditions de déplacement des cyclistes existants. Parce qu'on sait que beaucoup de personnes font un peu du vélo pendant une durée courte, puis arrêtent. Et si on arrive à maintenir ces personnes-là, eh bien en fait, le nombre de cyclistes va augmenter. Donc ça, c'est des choses. Donc encore une fois, l'importance de l'entretien, de permettre à ce qui existe déjà de se maintenir sur la durée. C'est ça qui est vraiment très intéressant dans la réparation de vélos. Ça pose ces questions-là. Donc il n'existait pas énormément de recherches sur la réparation de vélos. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressée. Et un point très central dans mes recherches et qui est aussi très important pour les ateliers vélos, c'est la question de la vélonomie. Et alors moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de définir la vélonomie. Et en fait, dans les ateliers vélos, tout le monde parle de vélonomie, mais c'est très peu défini. Il n'y a pas d'article vélonomie dans le Wicklow. Enfin, en tout cas, pas la dernière fois que j'ai cherché. Ce qui est fou, parce que c'est cité dans des dizaines d'articles. Donc tout le monde le mentionne, mais personne ne le définit. Pour certaines personnes, la vélonomie, ça veut dire savoir faire du vélo. Pour d'autres, ça veut dire savoir réparer. Moi, j'ai essayé de proposer une définition qui inclut ces deux choses ensemble et qui est aussi une des manières d'utiliser ce terme qui est la plus courante dans les ateliers quand même. Et donc, j'ai essayé de proposer la vélonomie, c'est le niveau d'autonomie d'un ou une cycliste, c'est-à-dire l'aisance que celle-ci ou celui-ci montre lors de ses déplacements à vélo ainsi que lors de ses pratiques de réparation et d'entretien, et ce, dans le but d'atteindre ses objectifs individuels et collectifs. Alors, c'est beaucoup de mots, mais les idées que j'ai essayé de porter, c'est bon, déjà la question de l'autonomie. On a souvent tendance à mélanger autonomie et indépendance et à imaginer qu'être autonome, c'est être un peu coupé du reste du monde et faire ce qu'on veut. Et on se rend compte que l'autonomie, dans la question du vélo, c'est au contraire se rapprocher de son vélo et pouvoir être en relation avec ce vélo, être en relation avec les choses qui nous entourent et organiser de la meilleure manière ces relations-là tout ensemble. Donc ça, c'est la première chose sur l'autonomie. Donc ensuite, être vélonome, c'est pour moi à la fois savoir réparer et savoir rouler. Et j'ai montré dans mon travail des manières dont ces deux choses sont indissociables, ces deux choses vont ensemble. Donc moi, j'ai montré qu'on apprend à réparer en roulant et on apprend à rouler en réparant. Donc ces deux choses, ça découle de la même idée qui est on comprend comment fonctionne son vélo et on se l'approprie. Et donc ça montre que la vélonomie, c'est un flux, c'est un processus, et c'est jamais vraiment fini, et progressivement, on découvre son vélo, on se l'approprie, voilà. Donc, qui est responsable de la vélonomie? Donc on peut dire les cyclistes doivent apprendre, doivent devenir vélonomes, et on peut mettre toute la pression sur les épaules des cyclistes, qui déjà ont les mollets bien usés. Mais en fait une ville peut être vélonome, et donc par exemple la ville de Grenoble peut être vélonome si elle propose aux cyclistes des outils, des ressources qui leur permettent de s'approprier leur vélo, qui leur permettent de comprendre comment fonctionne leur vélo. Et de même, le vélo lui-même peut rendre les personnes vélonomes. Un vélo, il peut être facile à comprendre, il peut être facile à utiliser. Et la conception du vélo va aussi avoir un impact sur cette vélonomie. Alors en pratique, comment se passe la réparation pour les cyclistes? Donc je suis allée demander à plein de cyclistes dans les deux villes dont je vous ai parlé, comment ça se passe, vous avez eu des pannes, qu'est-ce qui se passe, etc. Et une chose très importante, c'est que la panne et la réparation, c'est omniprésent. Donc les 25% des cyclistes qui ont répondu à mon questionnaire avaient eu un souci mécanique dans le dernier mois, et 75% dans la dernière année. Donc il faut savoir que la panne, c'est quelque chose d'hyper présent, et même quand on n'a pas des soucis, on y pense, on les anticipe. Donc vraiment, la mécanique, c'est absolument central dans la manière dont on se déplace à vélo. Une autre chose intéressante sur la réparation et la panne, c'est que c'est des choses très difficiles à délimiter, c'est très flou. On ne sait jamais vraiment quand la panne a commencé. Le moment où on s'en rend compte, c'est rarement celui où elle commence. Et donc, il y a cette espèce de battement qui est un enjeu hyper central de tous les acteurs de la réparation qui essayent de réduire au maximum ce moment où notre vélo est cassé, mais on ne le sait pas, voilà, où il se dégrade, etc. Un autre élément de ce flou, c'est par exemple qu'énormément de personnes se déplacent avec des vélos en mauvais état. Ça, vous pouvez regarder les vélos qui sont garés dans la rue. Vous avez tous vu des gens arriver à des ateliers avec des vélos absolument terrifiants. Vous avez peut-être même roulé sur des vélos terrifiants. Donc ça montre une redéfinition de qu'est-ce qu'une panne. Tout le monde n'a pas du tout la même idée de ce que c'est qu'une panne. Et donc, Il y a un travail collectif de définition ensemble et de fixer des critères objectifs qui permettent d'améliorer les conditions de circulation des cyclistes. Un autre paradoxe assez terrible avec le vélo, c'est qu'il y a cette idée qu'il faut savoir réparer, qui est inclus dans l'identité des cyclistes et dans la légitimité des cyclistes, mais il n'existe aucune institution, aucun passage de la vie où on est censé apprendre. Donc soit votre père, généralement, absolument toutes les personnes qui ont appris dans leur enfance, avec qui j'ai pu discuter dans les dizaines et les dizaines de personnes, c'était leur père qui leur avait appris à réparer. Soit votre père vous a appris à réparer, soit vous n'avez pas appris et vous allez vous sentir mal à chaque fois que vous avez une crevaison parce que vous devriez savoir, etc. Donc là, il y a ce paradoxe énorme qui crée une sensation de culpabilité très très présente parmi les cyclistes. Une autre chose que j'ai pu observer, c'est que contrairement à la voiture où il y a une standardisation très forte avec des dispositifs d'assurance, etc., dans le vélo, il y a à la fois d'une part beaucoup de personnes très compétentes en réparation et de l'autre beaucoup de personnes absolument pas compétentes en réparation. Beaucoup de personnes qui possèdent des outils, etc., et beaucoup de personnes qui n'en ont aucun. Donc ça, c'est très intéressant, cette espèce d'explosion entre vraiment différents groupes très très divers, et je pense pas qu'avec d'autres modes de transport, on ait un tel écart et d'aussi grands groupes dans chacun de ces deux extrêmes. Et pour chaque personne, évidemment, les compétences sont diverses. Une personne va savoir faire certaines choses, pas d'autres, etc. Et bon, voilà, j'ai aussi constaté notamment beaucoup de témoignages qui parlaient de frustration et dans un autre registre d'improvisation. Donc les expériences de réparation sont très riches, très diverses et très chaotiques parfois. Donc un dernier point que je voulais vous mentionner avant qu'on passe à la suite de cette table ronde, c'était la question qui se charge de la réparation, qui nous mène un peu à une réflexion sur la place des ateliers. Donc d'une part, je pense que la discussion sur la différence entre entretenir son vélo et réparer son vélo, ça montre que la réparation, elle peut se répartir dans le temps. Est-ce qu'on arrive à anticiper? Est-ce qu'on fait les choses une fois que c'est cassé? Comment est-ce que tous les acteurs de l'écosystème de la réparation contribuent à permettre aux gens de se déplacer vers un fonctionnement plutôt basé sur l'entretien que sur la panne? Donc ça, c'est un élément intéressant et central de tous les acteurs dont on parle. Mais c'est aussi intéressant de voir les acteurs de la réparation comme un écosystème, donc notamment les ateliers vélo et les magasins de vélo. Eh bien, c'est des espaces complémentaires. Ils réparent souvent des types de vélos différents, de manières différentes. Ils sont souvent en lien. Il y a beaucoup de phénomènes d'entraide que j'ai pu observer, des usagers qui sont envoyés d'un endroit à l'autre, etc. Pour un peu les chiffres, je me suis rendu compte que par rapport à Melbourne, à Lyon, les cyclistes vont beaucoup plus dans des ateliers d'autoréparation, moins souvent chez des vélocistes, ils ont plus souvent des vélos d'occasion, ils sont plus à l'aise avec la réparation en moyenne et ils ont plus tendance à réparer eux-mêmes. Je pense que le très riche écosystème d'ateliers d'autoréparation qui existe à Lyon, donc pas aussi merveilleux que Grenoble bien sûr, contribue à cela notamment. Donc au fait que les compétences soient bien plus développées. Donc à Lyon, il y a à peu près 37% des cyclistes à Lyon qui vont parfois chez un vélociste et 30% qui vont parfois ou souvent dans un atelier d'autoréparation. Mais les ateliers d'autoréparation ont beaucoup plus de personnes qui ne les connaissent pas. Donc il y a la moitié des cyclistes lyonnais qui ne sont jamais allés à un atelier d'autoréparation. Donc je pense qu'il y a aussi un truc de la connaissance des ateliers qui joue et pas seulement le fonctionnement une fois qu'on y est. Et évidemment, plus il y en a, plus ils sont connus. Donc c'est des boucles aussi comme ça. Et aussi, une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que la réparation, elle ne se fait jamais en silo. Et souvent, en fait, les personnes, ils ont commencé dans un magasin, et puis il y a peut-être un truc qui ne s'est pas bien passé, alors ils sont allés dans un atelier d'autoréparation, et puis là, on leur a dit « Ah, mais tu peux faire ça !» Donc ils sont rentrés chez eux, ils sont allés voir un tutoriel sur Internet. Donc on se rend compte que les formes de réparation sont très hybrides, très mélangées. Je pense que c'est aussi un exemple de comment cet écosystème il se nourrit de tous ces éléments. Et voilà, c'est peut-être ce que j'avais envie qu'on retienne, peut-être cette richesse de l'écosystème qui est peut-être aussi un peu le thème de cette table ronde aujourd'hui. Donc merci beaucoup et je vais vous rendre le micro.
Merci Margot. C'était riche, foisonnant et stimulant. Après avoir beaucoup parlé de Lyon, réatterrissons à Grenoble et je vais me tourner à ma droite et regarder nos témoins locaux de Grenoble, donc Damien Cottereau que je vous ai présenté et Marie Ménager. Et j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser, notamment sur la clavette. Oui, parce que, pour rappeler quand même l'intersection des publics et des territoires, l'idée de cette conférence, c'est de vous dire que le recyclage produit des super livrables, et parmi ces livrés que vous avez sur la table, à l'accueil, vous n'aurez pas noté ce rappel, il y a un tout nouveau livret, qui est le livret sur les coordinations locales d'ateliers vélo. Donc, les coordinations locales d'ateliers vélo, ce sont des rassemblements d'ateliers sur une même zone qui se dit « Hey, chouette, si on coopérait ensemble !» Donc, Marie, Damien, moi, j'aimerais vous poser déjà une question assez générale. Parlez-moi de la genèse de cette première clavette de France, en croisant vos points de vue, c'est-à-dire celui de l'association, la clavette, et celui de la collectivité qui la soutient historiquement. Et vous avez un micro sur cette petite table.
Oui, bonjour. La genèse, alors, moi j'y étais à l'époque, mais pas en plein dedans. Je voyais les copains et les copines qui faisaient la clavette. Et du coup, je peux quand même le raconter, mais ça commence par l'essaimage déjà, puisque initialement, donc ça part d'un atelier historique qui est un petit vélo dans la tête, et c'est au moment où il y a d'autres ateliers qui se créent que du coup, il peut y avoir une clavette, puisque s'il y avait qu'un atelier, il ne pourrait pas y avoir une clavette. Et ça s'est fait. C'est une dynamique qu'on peut dire qu'elle est aussi partie du petit vélo, qui voulait essaimer parce que le petit vélo avait beaucoup de monde et du coup disait il faudrait créer d'autres ateliers parce qu'ici il y a trop de monde et nous on ne veut pas grossir. Et du coup ça s'est fait et il y a eu des ateliers qui ont même été vraiment directement accompagnés par le petit vélo pour leur création. D'autres qui ont eu l'idée comme ça en disant oh là là, moi je ne peux plus rentrer dans une perme au petit vélo parce qu'il y a trop de monde, du coup viens on en fait un dans notre quartier. Et c'est à partir de là qu'il y en a eu plusieurs qui se sont créés à peu près dans les mêmes temps. Et c'est comme ça que ça. Et que c'était du coup aussi des personnes qui se connaissaient. Et qui se sont dit en même temps qu'elles créaient leur atelier, qui étaient en lien avec les autres personnes qui créaient leur atelier. Et donc c'était une clavette dès le début en fait. Et après, il y a eu la structuration de la clavette, elle a été beaucoup. On va dire un peu accéléré par la proposition à l'époque de la métro de soutenir cette dynamique-là en la finançant directement pour lui permettre de salarier quelqu'un pour la soutenir et la structurer. C'était un peu ça l'histoire.
Bonjour, donc moi c'est Damien, effectivement je suis technicien donc au SMAG. Et je remercie Madame Bourdelin qui représentait les élus du SMAG pour leur ambition qu'ils ont sur le vélo et leur générosité dans les budgets qu'ils peuvent allouer pour cette politique-là. Et c'est vraiment une chance qu'on a au niveau du territoire. J'en profite aussi pour saluer mes colocataires d'un temps, donc Étienne et Mathilde. Voilà, on a le plaisir d'accueillir à la maison. Donc ça, c'est aussi une richesse de ces rencontres, c'est de pouvoir accueillir des gens du terrain et puis de marier un peu les expériences. Donc le SMAG, on porte une ambition forte sur le vélo. Alors nous, on traite de mobilité quotidienne. Donc ce qui nous intéresse, c'est le sens de notre action, et de l'action politique, c'est de faire évoluer les comportements de mobilité quotidiens et de favoriser notamment la pratique du vélo. Donc quelques données. La pratique du vélo sur notre territoire, selon les, on fait des enquêtes ménages, donc c'est des grandes enquêtes tous les 10 ans. Entre 2010 et 2020, elle a doublé. Donc on a environ 130 000 déplacements quotidiens sur le territoire à vélo. On a plus de déplacements à vélo sur la zone urbaine dense, hein, ou même sur Grenoble, on a quasiment 20% des actifs qui se déplacent à vélo pour aller au travail. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que on a aussi une accélération après Covid, où là, on a aussi des compteurs permanents, donc on a une vingtaine de boucles de comptage, donc quand vous passez dessus, on vous compte. C'est anonyme, hein, rassurez-vous, mais on vous compte, et c'est vachement intéressant, c'est de voir qu'on a une progression qui est absolument gigantesque depuis 2020. On fait plus 30%, en 2021 on a fait plus 30% par rapport à 2019, et en 2022 on a encore fait un plus 30% sur nos compteurs. Donc on a des points de comptage où on arrive à plus de 8000 cyclistes jour, ce qui est assez notable pour la ville, et on a battu nos records encore récemment au mois de mars. Voilà. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on commence à avoir en plus, parce qu'on mesure en même temps la météo, et on commence à avoir des cyclistes 4 saisons. Voilà. Donc avant la météo, alors c'est marrant parce que nos compteurs ils sont associés à des balises météo, donc on sait quand il pleut, quand il fait soleil, quand il y a du vent. Et avant, on avait un effondrement de la pratique vélo dès qu'il y avait 3 gouttes de pluie, ou dès qu'il faisait froid. Voilà. Et on a de plus en plus un effet météo qui est amoindri, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cyclistes. Eh bien, même en hiver, ils continuent. Alors, pour les pays nordiques, pour eux, c'est normal. Mais en tout cas, ici, ce n'est pas ce qu'on constatait. Donc, on a du cycliste 4 saisons. Et ça, vraiment, on s'en félicite. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que dans ces résultats de comptage, dans cette enquête, c'est que la progression du vélo, ce n'est pas qu'un truc de gens qui habitent en ville et qui ont 500 mètres ou 1 km à faire, ou deux. Mais on a un doublement de la pratique, y compris ville-campagne. Alors on me dirait en campagne, on les voit pas trop ces doublements, mais on est passé de 1,5 à 3%. Voilà. Là où en centre-ville, on est passé de 7 à 14. Donc quand on commence à mettre 14% des déplacements à vélo, ça se voit vraiment, on commence à avoir des bouchons de vélo, etc. La campagne, ça se voit moins, mais néanmoins, on a ce doublement qui se fait vraiment tout territoire et qui est vraiment intéressant. Et donc on a besoin d'accompagner ce développement, tout territoire. Et pour ça, on porte une politique effectivement. Alors c'est un truc très classique, hein, dans toutes les politiques vélo, c'est le premier, on fait des aménagements, parce que notre but c'est bien la vélonomie, et j'ai beaucoup aimé votre définition sur la vélonomie, et c'est de donner effectivement tous les ingrédients pour que les usagers puissent être vélonomes sur notre territoire. Donc le premier, on fait des aménagements, parce que le premier frein à la pratique, hein, tout territoire confondu, je fais pas, c'est trop dangereux, effectivement vous avez des bagnoles à 70 qui font 2 tonnes qui vous doublent. C'est pas rassurant. Donc le premier, c'est les aménagements. Le deuxième, c'est le stationnement. Voilà, on a 100 consignes fermées. Je fais plus de vélo, on me l'a piqué. Bon, ça, et puis Grenoble, sur le territoire, on est plutôt champion du vol, malheureusement. C'est aussi des services. et je reviendrai un peu sur l'aspect service. Je fais pas de vélo, c'est compliqué à entretenir. Un vélo, ça se dérègle en un mois. Il faut le gonfler tous les mois, par exemple. Et puis on fait aussi de la communication et de l'animation. Je fais pas de vélo, j'y ai jamais pensé, donc on va créer des moments où on va créer du loisir, de l'événementiel autour du vélo. C'est ce qu'on fait sur Mets à vélo, on crée des opportunités en disant venez essayer le vélo en famille, on vous propose un petit escape game familial, vous allez mener une petite enquête. Ça c'est le paquet cadeau, mais derrière ils vont faire 8 km en zone urbaine et vont se déplacer en vélo en famille. Et la clavette, justement, elle s'inscrit à 100%, même, je pourrais dire même 1000%, dans l'offre de service pour les habitants du territoire. Et au niveau de notre politique, donc sur cet objet serviciel, parce que je pense que vraiment l'objet de la clavette, il intervient sur cet objet service, on a besoin de développer pour des territoires cyclables une offre de service complète. La première, c'est je veux un vélo clé en main. Donc ça, on a effectivement, comme l'a rappelé Madame Bordelin, on a un service, on a 10 000 vélos à la location. Vous avez un vélo clé en main, il est entretenu, vous passez tous les mois, tous les 2 mois, vous pouvez passer tous les 4 mois, et votre vélo, vous avez crevé, vous n'avez pas besoin de mettre les mains dedans, et c'est facile. Par contre, le vélo, il ne fait pas rêver tout le monde, hein, mais voilà. Mais il a le mérite d'être bien entretenu, il a un éclairage qui marche, il a des freins qui fonctionnent, et déjà ça, pour bon nombre, c'est un truc incroyable. Voilà. Et puis on a le vélo à assistance électrique là, pour des territoires plus lointains où là on se positionne plutôt, bah, venez essayer et puis après on va vous aider si vous voulez vous équiper. On a aussi des vélocistes et on a un réseau de vélocistes qui est hyper étoffé, on en est vraiment content et on entretient des bonnes relations. Et la clavette aussi, et ça aussi, on en reviendra peut-être après sur les objets, pourquoi ça marche la clavette, c'est parce qu'ils ont su bien travailler avec les vélocistes en local. Et enfin on a les ateliers qui sont à la mi-chemin entre le service clé en main ou le vélociste, j'ai mon vélo perso, et ben sur effectivement des vélos que quand vous achetez un vélo à 50 euros et que le vélociste, il vous annonce 150 euros de réparation, il va vous guider vers l'atelier d'autoréparation. Donc il y a vraiment, ça participe à ce paysage de service où on a besoin pour être justement atteindre cette vélonomie. Voilà. Et dans cette offre de service, on a voulu justement donc favoriser la clavette. Favoriser la clavette, c'était, on a été approché quand même par les ateliers. C'était pas une démarche directe de la collectivité, mais on leur a dit, nous on est ouvert. Si vous avez des propositions, faut que ça vienne de vous. Hein, nous, enfin, on veut pas faire d'ingérence dans vos affaires. Et ils ont dit non, mais on est mûr. Notre but c'est de faire de l'essaimage, mais on a besoin de qu'on nous aide parce que on n'a pas assez de temps bénévole pour porter tout ça. Et ils ont fait un super recrutement à la personne de Mathieu que je salue. Et ils ont pu comme ça ainsi développer justement une coopération dans ce but d'essaimage, parce que la pratique vélo elle se développe sur tout le territoire. Et on a eu besoin, et il y avait besoin de ce support qu'est la clavette pour permettre à des ateliers de se développer dans des zones excentrées, dans des quartiers politiques de la ville, dans des endroits où c'est un peu plus compliqué et puis le collectif n'est pas encore là et il faut l'accompagner pour rechercher un local, pour former des bénévoles, etc. Voilà. Et donc ça s'est concrétisé par, ça fait bientôt 7 ans qu'on finance effectivement la clavette. Donc on a autour de 40 000 euros pour rentrer dans l'aspect mercantile, on finance en gros le poste de Mathieu, et puis les charges afférentes. Depuis 3 ans maintenant aussi, on a un petit budget qui est alloué à la clavette, et qui elle, enfin un petit budget, un budget de 5000 euros quand même, et qui permet aussi à chaque atelier d'être autonome en disant là j'ai un besoin de, on crée un nouvel atelier, il y a besoin d'acheter des outils, etc. Et donc il y a ce budget qui vient là derrière pour favoriser justement cet essaimage.
Merci Damien. Et si comme moi vous êtes ébahi par cette belle coopération collectivité-association, vous pourrez retrouver dans le guide de Clavette, page 7-8, le témoignage de Damien, que je remercie. Et on a également un témoignage d'une autre collectivité locale, celle de Lyon. Donc elle n'est pas présente aujourd'hui parmi nous, mais je remercie Madame Famy d'avoir témoigné dans le guide des Clavettes. Donc typiquement, chers ateliers, vous avez un rendez-vous avec la technicienne ou le technicien vélo de votre collectivité. Ne manquez pas de vous munir de ce superbe guide pour obtenir une convention pluriannuelle d'objectifs pour financer la clavette de votre territoire. Moi, j'ai envie de rebondir auprès de Damien et de Marie sur une question. C'est quoi une clavette qui marche bien ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire, sur notre territoire, la clavette, ça roule ? Est-ce que vous voyez des facteurs ? J'aimerais bien votre point de vue.
Tout à l'heure, je pensais à quelque chose, je ne sais plus, j'entendais, le vélo, c'était dans une discussion que j'ai eue tout à l'heure, ça devient un marché, ou quand il y a quelque chose comme ça qui devient un peu à la mode et du coup ça peut vite devenir être récupéré par capitalisme et puis devenir quelque chose où on se concurrence les uns les autres. Et en fait, ce qui se joue dans une clavette, c'est qu'à aucun moment on a pensé à ça. C'est pas un enjeu, la concurrence, parce qu'en fait c'est pas un marché. Et c'est ça qui fait qu'une clavette, ça fonctionne bien. C'est qu'en fait, qu'on construit une société différente et qu'on fait de la transformation sociale. C'est qu'en fait, on n'est pas sur un marché de la réparation de vélos ou de la défense de la pratique du vélo. On est sur une cause commune et qu'on essaye de s'organiser au mieux à l'échelle d'un territoire pour la faire avancer. Et du coup, plus il y a d'ateliers, mieux c'est, en fait, et plus on maille le territoire, comme on dit, plus on est content, plus il y a de gens qui peuvent aller réparer leur vélo, et plus on fait avancer cette cause-là. Après, il y a autre chose qui se joue, ça va être, et qui est aussi intéressant dans le fait d'avoir à la fois un soutien d'une institution et d'être sur quelque chose qu'on va considérer comme un service, comme tu disais Damien, qui est de l'ordre du service public, qui doit être non marchand, du coup, et qui va aussi être porté par des associations au niveau des quartiers et par des collectifs avec des états d'esprit différents les uns des autres, par des personnes qui sont investies, qui s'engagent avec leur personnalité, avec leur personnalité différente. C'est d'avoir aussi une diversité de collectifs avec plein de fonctionnements différents. Et des fois, ce qu'on dit, c'est aux personnes, si tu cherches un atelier, tu peux choisir le plus proche de chez toi, regarde la carte et va dans celui qui est le plus proche de chez toi. Mais tu peux aussi choisir celui qui est ouvert aux horaires qui vont bien avec tes horaires de travail. Mais tu peux aussi, après, aller dans celui dans lequel tu vas te sentir le plus à l'aise, ou là où tu as tes copains ou tes copines, ou là où ça va être un peu plus structuré et tu vas te sentir un peu plus à l'aise, ou là où c'est beaucoup plus schlag et un peu à l'arrache, et du coup, tu vas pouvoir t'y investir plus facilement parce que tu vas pouvoir prendre des initiatives. Et tout ça n'étant pas exclusif les uns des autres. Et du coup, c'est ça aussi, je pense, une clavette qui marche bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, un autre truc par rapport à la vélonomie que j'ai trouvé super. C'est que, en fait, l'autonomie, c'est un peu la maîtrise de ces différentes dépendances. En fait, on reste dépendants les uns des autres, et c'est de construire ces dépendances-là et de créer un atelier. Déjà, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est pas je vais m'autonomiser toute seule dans mon garage en m'achetant mes outils et en apprenant, mais c'est en mutualisant les outils et en organisant la transmission généralisée de tous ces savoirs de base qu'il faut entretenir au lieu d'en créer des nouveaux, et comme tu disais Margot, et c'est comme ça qu'on crée de la vélonomie, c'est de l'autonomie collective aussi. Et du coup, ça se fait à l'échelle d'un atelier et ça se fait à l'échelle de la clavette aussi, parce que à l'échelle de la clavette, on va avoir un petit atelier qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui permet de faire un lieu dans tel endroit du territoire qui va être un peu excentré et qui va pouvoir s'appuyer sur le gros atelier qui est au centre, qui est un peu loin, mais comme il est gros, et ben, il peut fournir des pièces de rechange et s'appuyer sur l'autre atelier qui est encore à l'autre bout, mais que là-bas il y a quelqu'un qui sait réparer tel truc que personne d'autre sait réparer, et du coup quand on a cette panne-là qui arrive, ben, on va lui demander à lui, et ben, voilà, c'est tout ça.
Merci Marie. Et côté collectivité, Damien, pour toi, qu'est-ce qu'une clavette qui marche bien ?
Alors ça va être un peu moins humain, je suis désolé. Voilà. Effectivement, évaluer la bonne santé d'un collectif d'un point de vue d'une collectivité, ça se résume quand même beaucoup souvent à des chiffres. Hein. Donc je suis désolé, c'est assez brut, mais pour le coup, la clavette grenobloise produit de très bons chiffres. Et donc, ça nous permet, parce que là vous avez Madame Bourdelin qui va voter des budgets. Et un vote du budget, ça fait toujours débat. Et il faut argumenter. Et quand on soutient un collectif, c'est annualisé. Donc, on ne peut pas signer des choses sur 7 ans. En fait, tous les ans, on revote un budget. Donc, tous les ans, il faut justifier ce qu'on a fait l'année d'avant. Et vous me direz, tant mieux, parce que ça veut dire que c'est une bonne gestion des deniers publics. Mais néanmoins, tous les ans, il faut aller montrer et dire « Regardez, ils ont bien travaillé. » Voilà. Donc, quelques indicateurs qui nous servent à montrer cette vivacité. C'est déjà ce qui fait les objets de la convention qu'on a ensemble, c'est la création de nouveaux ateliers. Et c'est vrai que quand la clavette grenobloise, en 2017, il y a 7 ateliers, et qu'en 2023, on est à 20 ateliers, on se dit banco. Voilà. Et ça, quand la clavette elle fait bien ce boulot, et ben, le technicien de votre collectivité, c'est beaucoup plus facile pour lui d'aller discuter devant les élus. Le deuxième, c'est l'autre partie qui fait la nature, c'est la création de collectifs, donc la formation des adhérents. Combien vous avez formé de personnes, combien vous avez pu faire accueillir de personnes dans les ateliers. Et la création aussi de supports en commun. Parce qu'avant qu'il y ait la clavette, il y avait cet atelier avec plein de diversité. Mais quand, par exemple, nous, on était sollicités en disant on voudrait faire appel à un atelier d'autoréparation, je leur donnais la liste, je disais bon courage. Voilà. Et l'idée d'avoir un guichet unique par la clavette, parce que, effectivement, il y a beaucoup d'ateliers qui vendent de la presta à des collectivités, et c'est super, dans des écoles, dans des CCAS, etc. Mais le fait d'avoir une porte d'entrée, une visibilité qui vous est donnée par des supports communs qui ont pu être élaborés dans ce temps-là, c'est vrai que ça fait un peu plus, ça fait pro et ça donne une information. Ça ne veut pas dire qu'il faut unifier, il faut standardiser. Ce n'est pas du tout le sens du propos. Mais par contre, ça donne une visibilité avec des outils communs et on se dit, OK, en fait, ils savent dans quelle direction ils veulent aller. Ils ne sont pas tous pareils, mais j'ai une porte d'entrée et ça, c'est hyper utile. Donc la clavette, elle a permis de faire ça. Et donc, ils mettent à jour leur support très régulièrement. Et puis aussi, c'est la diversité des actions qu'ils ont pu porter. Donc la récupération de vélos en déchetterie. Et puis le dernier exemple en date, c'est le congrès. Ah ouais, effectivement, quand on se dit, ils vont bien, parce qu'ils portent un congrès, ils accueillent 300 personnes et ils savent le faire. Et ils le font de manière très propre et très classe, je pense. Voilà. Donc après, ce qui est difficile, la difficulté après de dire là-dedans, voilà, pour être tout à fait franc, c'est qu'au début, on a commencé à dire, OK, vous allez vous engager, on signe une convention avec vous, vous allez faire ça, entre guillemets, vous faites ça pour nous, pour notre compte, et nous, on vous donne temps, par contre, vous êtes redevable. Et on a appris un petit peu à se connaître, et effectivement, l'ingérence des collectivités dans les ateliers d'autoréparation, ce n'est pas très apprécié. Voilà. Néanmoins, on est financeur et on est responsable des deniers publics, et donc, il y a effectivement... Et je pense qu'on a trouvé peut-être le bon ton, en tout cas, pour se dire, effectivement, on vous finance, donc vous nous devez des chiffres, vous êtes redevables quand même, parce que nous, on est bons gestionnaires, on veut savoir ce que vous faites. Par contre, on ne va pas vous expliquer comment le faire, et ça, vous le savez mieux faire que nous. Et puis, on s'est un peu arrêté là. Voilà. Moi, je ne participe pas aux réunions de la clavette, et c'est très bien comme ça. Voilà. Peut-être le point de vigilance, le dernier point de vigilance qu'on peut avoir sur le local, parce qu'on ne va pas dire qu'on est que les champions du monde, c'est peut-être le financement exclusif par le syndicat de mobilité. Alors, même si on ne fait pas de politique, on n'est pas trop aidé par la région Rhône-Alpes, mais un financement exclusif, c'est vrai que c'est un danger pour une association, parce que tous les ans, le poste de Mathieu, il est redélibéré. Enfin, si on parle de manière assez brute, il est redélibéré. Donc, en termes d'assises et de confort, voilà. Et puis, montrer qu'on se diversifie, il faut montrer aussi qu'on a d'autres subventionnements et qu'on arrive à capter. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'argent qui arrive sur le vélo. Et voilà, peut-être les actions futures seront de montrer qu'on arrive à se diversifier dans nos ressources. Voilà. Ce que vous faites très bien en vendant des prestations par ailleurs à des collectivités X ou Y, mais au niveau de la clavette, peut-être ça peut être un enjeu pour les années à venir.
Merci Damien. Ce que j'entends en synthèse dans vos deux points de vue, c'est cette relation de confiance qui lie la clavette et le SMAG. Le temps file vite. On a trois livrets, donc là on vient de parler de ce premier livret sur les coopérations interateliers. Je garderai le regard vers ma droite et je vous propose d'entrer cette fois-ci dans les quartiers politiques de la ville et du coup de mettre le regard vers ce joli livret. J'en profite au passage dans la liste des remerciements. J'ai oublié une personne très importante qui a permis justement la sortie de terre de ces livrets. Et ça, vous allez voir, ça va faire le lien clavette QPV, parce que c'est quand même réfléchi, mes transitions, même si on ne dirait pas. Du coup, c'est Lucien Chollet de la clavette lyonnaise. Merci à Lucien pour son regard à la fois tant sur le contenu que sur la forme. Du coup, il a beaucoup contribué à la sortie de ces deux livrets, sur les quartiers politiques de la ville et les clavettes. Et le recyclage te remercie du fond du cœur. Alors, les QPV. Donc, je vous ai dit que nous avions Dominique Carnot, présente aujourd'hui ce jour, de la cycloficine de Pantin, et Sylvain Rotillon, de la DGITM, du ministère de l'écologie. Alors, les QPV, on les définit par, notamment par leur faible niveau de revenus au niveau de des habitants et habitantes. On a l'ANACT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, hein, que nous citons dans ce livret, qui sert un peu à donner des éléments de cadrage. Moi, sur cette question des ateliers d'autoréparation en politique de la ville, j'aimerais, première question que j'adresse à Dominique, que tu nous parles, Dominique, de l'expérience et du positionnement de la cycloficine de Pantin par rapport au QPV, parce que vous êtes un atelier qui a fait le choix de s'installer à Pantin, dans un quartier politique de la ville. Je te laisse le micro.
Bonjour. L'histoire de la cycloficine de Pantin, elle est un peu liée à cette histoire d'essaimage dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient investies dans un atelier à Paris et qui se sont dit, mais en fait, on n'habite pas à Paris, on va faire des ateliers dans nos quartiers, en banlieue parisienne. Et du coup, à Pantin, ça a toujours été une volonté de faire des ateliers dans un quartier spécifique, Quatre Chemins, qui est en quartier prioritaire de la ville. Pour toucher des personnes qui ont à la fois moins les moyens d'entretenir leur vélo ou juste déjà de se mettre au vélo et qui par ailleurs sont isolées, dépendent des transports, etc. Et donc au début c'est beaucoup d'ateliers de rue et la mairie nous a proposé un local dans les beaux quartiers de Pantin, mais on a encore refusé parce qu'on voulait vraiment être attaché à nos quartiers, en fait, au quartier où on vit. Et au quartier où ça nous semble pertinent d'intervenir. Il y a vraiment cette attache de, on intervient dans les quartiers où on vit, et donc on fait à la fois des actions vers l'extérieur avec des ateliers de rue, mais en fait, au fur et à mesure, on a commencé à intervenir dans les quartiers, on a décrypté d'autres enjeux aussi. Donc la nécessité pour beaucoup de personnes, en fait, c'est pas seulement savoir entretenir son vélo et avoir accès à un endroit pour le faire et aux connaissances, tout ce qu'on fait en atelier de rue où on vient avec les outils au pied des immeubles, une fois par mois dans notre cas. Mais il y a aussi en fait tout l'enjeu d'apprendre à faire du vélo. Donc c'est comme ça que petit à petit on a développé de la vélo-école pour adultes. Parce qu'en fait, il y avait énormément de freins autres que tout ce qui est infrastructure et plein d'autres arguments qui font qu'on ne se met pas forcément en vélo. En fait, il y a le fait, en tant qu'adulte, de ne pas savoir faire de vélo. Et aussi beaucoup en tant que femme, parce que même si c'est une vélo-école mixte, c'est des enjeux qui touchent beaucoup les femmes, des quartiers prioritaires. Et aussi le fait d'avoir un vélo. Du coup, on a commencé à faire des stages où on récupère des vélos en déchetterie et où on accompagne des ados et des femmes pour, pendant une semaine, se faire le vélo et repartir avec. Donc petit à petit, au bout d'une dizaine d'années, on a réussi à atteindre un peu une complémentarité des actions qu'on essaye encore d'augmenter.
J'ai une petite question à ce sujet. Comment vous faites à Pantin, justement, pour toucher un public éloigné des ateliers vélo, des questions de mobilité?
Ouais, c'est un peu un de nos gros enjeux, parce que même si ça paraît génial de faire un stage vélo pour des femmes qui n'ont pas de vélo et qui vont s'en monter un pendant une semaine, en fait, on a beaucoup de mal à toucher ces publics-là. Et du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de se rapprocher des associations locales, parce que c'est ces personnes-là qui connaissent le quartier, en fait, qui sont au contact direct au quotidien avec ces personnes. Et du coup, beaucoup de partenariats avec d'autres associations qui sont en contact d'autres personnes qui les connaissent et qui vont relayer l'information.
Merci, Dominique. J'ai une question un peu plus à destination de Sylvain. Donc, dans le jargon mobilité, on parle de public empêché, souvent, pour parler des publics qui habitent dans les territoires peu denses ou dans les quartiers politiques de la ville. Sylvain, je me demandais, moi, si l'État déploie une approche spécifique vis-à-vis de ces publics dits empêchés. en termes de mobilité active? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors c'est la difficulté qu'on a. Alors, DGITM, pour ça a été dit, donc c'est la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités. C'est la direction du ministère qui traite de toutes ces questions-là. Donc, au sein de cette direction, on est trois sur les questions mobilité active. On est une petite équipe, mais c'est assez logique parce qu'en fait, concrètement, nous, on ne fait pas énormément de choses directes. C'est plutôt porter les politiques et accompagner au maximum ceux qui vont faire les politiques. Dans ces sujets-là, ce sont les collectivités, ce sont les acteurs locaux. Par rapport pour revenir à ta question, sur au niveau de l'État, on a un peu tendance à voir des choses de façon un peu macro. Donc, tel que nous, on voit les aspects, c'est des politiques très globales. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas attentif. Au contraire, c'est des sujets qui sont identifiés comme des sujets prioritaires. Le prochain plan vélo, qui devrait être annoncé bientôt, met l'accent sur le fait de pouvoir accompagner, d'avoir un territoire national qui soit accessible à tous, partout, pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire vraiment faire en sorte qu'il n'y ait personne d'oublié dans les politiques du vélo. Les difficultés qu'on a, c'est qu'on est... c'est des publics qui sont éloignés du vélo, mais qui sont aussi éloignés des politiques publiques. Donc, comment on arrive à voir... Et ce que tu disais est très juste, c'est comment on arrive à toucher vraiment les personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas proches de la question du vélo. Il y a une vraie difficulté à répondre aux besoins de ces personnes, parce que c'est des personnes... Les besoins sont mal identifiés. On travaille avec le Club des villes et territoires cyclables et marchables pour l'accompagnement sur les QPV, pour justement avoir une meilleure compréhension des enjeux, parce que l'approche, je dis, elle est nationale, c'est-à-dire on va avoir un peu tendance à avoir une vision qui, pour le géographe que je suis, est un peu absurde, d'avoir des visions, on a la ville, on a les territoires périphériques, on a les territoires ruraux, comme si c'était des catégories homogènes les unes des autres, alors qu'en fait non, on sait très bien que c'est pas homogène, mais la façon dont on construit nos politiques, c'est un peu comme ça, et il faut qu'on arrive à sortir de cette logique-là, mais pour sortir de cette logique-là, ça veut dire qu'on a besoin de mieux comprendre ce qui se passe et de corriger les politiques telles qu'elles sont menées aujourd'hui. Prendre un exemple là, sur des questions de recherche qu'on voit arriver là, sur la région parisienne, où si la pratique du vélo explose, tout le monde l'a noté. Mais sur la région parisienne, ce qu'on voit, il y a des effets qui ne sont pas spécialement rassurants dans cette explosion, c'est que les inégalités de genre diminuent globalement. Par contre, les inégalités sociales augmentent. C'est-à-dire que ceux qui font du vélo aujourd'hui, c'est plutôt les classes supérieures. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans le viseur et qu'on voit arriver. Et en grande partie, on n'a pas tous les éléments d'explication. Moi, j'explique par le fait que ce qui se développe aujourd'hui dans les ventes de vélos, c'est les vélos assistance électrique. C'est des vélos chers et qui ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population. Donc, on a des enjeux à ce niveau-là. Et c'est d'où l'intérêt aussi de travailler avec vous là-dessus. C'est que c'est pas forcément la même réponse qui doit être apportée partout. Et la question de la réparabilité des vélos, ça a été abordé par Éric Piolle par rapport à la voiture. Avant, il y avait une facilité à réparer sa voiture qui n'est plus qu'on peut plus faire aujourd'hui. Il faudrait pas qu'avec le vélo, on fasse le même cheminement. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner le VAE, c'est un super outil, en particulier pour les territoires plus éloignés, c'est une réponse adaptée en fonction des types de personnes, etc. Il ne faut pas faire du binaire, mais il ne faut pas perdre de vue que le vélo, c'est aussi un élément qui doit être réparé et qui doit permettre d'intervenir là-dessus. J'ai un peu dérivé par rapport à la question, mais c'est un peu ma façon d'être.
Parfois, la dérive, c'est chouette. Ça permet d'accoster sur des nouvelles rives et de croiser les regards. C'est le lien de cette conférence. On a parlé de questions de genre et ça refait un peu le lien, et je ne l'ai pas dit en te présentant, Dominique, parce que j'ai demandé à toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui, comment est-ce que je peux te présenter pour cette table ronde? Et toi, Dominique Carnot, tu m'as dit, moi, je fais de la mécanique dénuée de sexisme. Je m'ancre vraiment dans une approche cycloféministe. Et je me demandais justement, spécifiquement à Pantin, comment vous faites pour travailler avec un public féminin sur ces questions de mécanique? Ça m'intéresserait d'avoir ton regard à toi.
Du coup, ça va se jouer sur différents points. La première chose qui s'est mise en place, comme dans beaucoup d'ateliers en France aujourd'hui, c'est la mise en place de permanences en mixte et choisie, c'est-à-dire par et pour les femmes, les personnes trans, intersexes, non-binaires, pour créer un lieu de réappropriation des savoirs, pour défaire cette masculinisation imaginaire de la mécanique. Donc ça s'est joué dans un premier temps au sein de l'atelier, donc à la fois par les bénévoles et les adhérentes qui ont voulu avoir ce temps dédié. Mais en travaillant en quartier prioritaire, on a vite vu que y a aussi un effet de classe qui se jouait là-dedans, où quand tu es une femme aisée, c'est beaucoup plus facile d'accéder à la mécanique. Et du coup, on a voulu aussi avoir cette approche tournée vers les quartiers prioritaires et toucher des publics qu'on n'avait pas l'habitude de toucher. Donc à la fois avec les stages dont j'ai pu parler brièvement, où on propose aux personnes, aux femmes qui se réinterrogent sur leur avenir, de venir découvrir les métiers de la mécanique, donc en expérimentant par elles-mêmes pendant une semaine, mais aussi en allant voir des initiatives de mécaniciennes qui ont monté le premier atelier de la ville, véhiculer des imaginaires forts de femmes qui font, femmes ou minorités de genre, qui vont faire des choses en lien avec la réparation des vélos. Mais aussi, le point le plus important, donc, ça va être la vélo-école, où on se retrouve face à plein de femmes qui ont eu des blocages dans l'apprentissage parce que leur père, leur frère, leur cousin, c'est toujours l'histoire d'un homme qui leur a mal appris et du coup, elles ont décidé de plus jamais monter sur un vélo, ou alors il y a eu une chute, tout ça, c'est vraiment ce côté émancipateur aussi les ateliers vélo ont vraiment un rôle là-dedans.
Là encore, j'entends que tu permets de détricoter le patriarcat au quotidien. Sur ces questions de genre de vélo et de mécanique, j'aimerais aussi entendre Margot, parce que quand on a échangé pour préparer la conférence, Margot, tu m'as dit que tu vas notamment publier un article sur ces questions-là. Et là, c'est le regard de la chercheuse qui nous intéresse.
Merci. Oui, je voulais aussi juste dire sur la question de l'accès... de l'accès au vélo, qu'un chiffre que j'ai pu obtenir qui était très intéressant, c'était qu'effectivement, les cyclistes avec les plus faibles revenus vont beaucoup plus aux ateliers d'autoréparation et les cyclistes avec des revenus plus élevés vont plus souvent chez le vélociste. Donc on se rend compte qu'effectivement, là, il y a un rôle qui est joué par les ateliers vélo à ce niveau-là. Et c'est vrai que même moi, j'étais surprise parce qu'on a cette image de l'atelier de Bobo où un certain public vient, donc c'est le cas quand même, je pense. Il y a des dynamiques, de discrimination qui existent, mais à ce niveau-là, en tout cas, on sait que les ateliers sont des ressources pour les personnes aux plus faibles revenus, même dans le Lyon et Villeurbanne, qui sont les endroits où moi j'ai collecté mes données à Lyon. Et oui, du coup, par contre, sur le genre, c'est un peu le contraire. Et malheureusement, les femmes vont beaucoup moins en atelier vélo. Elles préfèrent aller souvent en magasin, donc ce qui a aussi un coût. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de dynamiques dont tu as très bien parlé sur l'exclusion des femmes de ces espaces-là. Et moi, je pense que c'est important de parler de l'exclusion par les espaces, parce qu'on a souvent tendance à internaliser ça et à penser que c'est les femmes qui ont choisi de ne pas aimer la mécanique, qu'il y a un truc un peu naturel dans leur gène qui, bien sûr, va les empêcher de développer cet intérêt. Et je pense que c'est important de parler des freins qui sont vraiment extérieurs à ces femmes qui pourraient, enfin ces femmes cyclistes ou qui pourraient l'être, la question de un espace qui est déjà très 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 masculin, ça construit un imaginaire et il n'y a pas de modèle par exemple qu'on pourrait suivre. Mais il y a aussi, par exemple, énormément de... Enfin, moi, ce que j'ai identifié comme un déni de compétences qui est systématique, où vraiment, quand une femme entre dans un espace de réparation, la première chose qui va être pensée, c'est que cette personne n'est pas compétente. Et donc, un énorme travail. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de femmes très expérimentées en réparation de vélo. Et ces femmes m'ont parlé de leur stratégie pour qu'on comprenne qu'elles savent réparer des vélos. Donc c'est un truc qu'elles font. Et quand on ne sait pas très bien, ce qui est le cas de beaucoup de monde, et de moi notamment, et de beaucoup de personnes en général dans les ateliers d'autoréparation, c'est pour ça que ça existe, eh ben, on arrive, il y a cette image dans laquelle il est assez facile de se glisser qu'on ne sait pas faire. Et donc c'est un point de départ difficile. Et puis on a aussi évidemment des situations de harcèlement, de ce que j'ai appelé l'attention inappropriée, mais qui est un peu l'objectification des femmes dans certains espaces, et notamment les ateliers vélo, où plusieurs personnes m'ont dit « Ah, c'est drôle, quand une femme entre, beaucoup plus de personnes essayent de l'aider. » Et ça crée un peu c'est bien, mais... Pourquoi ? Et donc, il y a aussi cette situation où certaines femmes se sentent pas respectées pour la raison pour laquelle elles viennent, mais un peu objectifiées. Donc c'est un certain nombre de dynamiques, finalement, qui poussent les femmes hors de ces espaces. Et quand on se dit « Ah, il n'y a pas beaucoup de femmes dans cet espace », voilà, c'est comment faire pour les motiver à ce qu'elles se disent qu'elles peuvent venir. Il faut plutôt se dire « Qu'est-ce qu'on fait qui les pousse hors ?» qui les pousse hors de ces espaces, et comment est-ce qu'on peut empêcher ça. Voilà.
Alors là, je remercie Margot qui m'offre une transition de choc, parce que dans les questions que je voulais vous poser à tous, il y en avait une sur... Alors, elle était rabiscotée. Sur ce qu'on appelle l'inclusivité, c'est-à-dire dans quelle mesure... Un atelier vélo, selon vous, il remporte le pari de l'inclusivité. C'est-à-dire, qu'est-ce que peuvent mettre en place des ateliers d'autoréparation pour incarner vraiment des postures féministes, anti-validistes, anti-racistes, donc être vraiment dans l'inclusivité ? Aménagement du local, point d'interrogation, formation des bénévoles. Et j'aimerais bien entendre mes camarades des ateliers vélo. Dominique, tu as le micro. Tu as envie de dire quelque chose ?
Je pense que c'est un peu en lien avec les pratiques d'éducation populaire des ateliers, mais je pense qu'on est en règle générale assez attentive à pas reproduire des schémas de domination et du coup à faire en sorte un peu d'analyser nos pratiques pour un peu améliorer ce qui va pas, etc. Et sur les questions de genre, discrimination liée à ça, on en parle beaucoup, mais aussi les questions d'handicap qui viennent de plus en plus. Et je pense qu'en premier lieu, c'est qu'on essaye de donner la parole aux premiers et premières concernées et faire en sorte que ça bouge de l'intérieur. Et je pense que ça, c'est la première étape vers l'inclusivité.
Petite page de publicité sur le réseau. On rappellera qu'au sein de le recyclage, il y a quand même un super catalogue de formations. Et pour travailler ces questions sur les discriminations systémiques, il y a aussi les formations du réseau, voilà, accessibles à vous tous, chers membres. Peut-être sur cette question-là, Marie, tu veux rajouter quelque chose ?
Juste, je constate qu'on a quand même toutes... ouvert grand les yeux comme ça, et parce que je pense surtout d'abord faut beaucoup de modestie sur ces questions, comme tu dis, avant qu'on ait entendu les personnes potentiellement concernées, qu'on ne sait pas forcément qui c'est, parce que quand on dit inclusif, ça serait des personnes qui potentiellement viennent pas et qu'on voudrait qu'elles viennent, mais du coup ça serait qui et pourquoi, c'est déjà penser à la place des autres, du coup on peut parler peut-être pour nous, sur les permanences qu'on a pu mettre en place, qui sont en mixité choisie, qui sont parées pour les femmes et les personnes trans et non binaires, où là on constate que d'avoir des espaces on va dire réservés, ça aide. Voilà. En toute modestie, qu'on ne sait pas si ça résout, si c'est inclusif complètement, si c'est... Et voilà, juste on peut que essayer des trucs.
Merci. L'heure file et j'aimerais parler d'un autre type de public empêché, pour reprendre la terminologie phraseuse, que j'affectionne peu, mais qu'il faut savoir manier, c'est les territoires peu denses. Alors c'est le moment où j'attrape élégamment le dernier livret que vous avez sur la table. Les ateliers vélo participatifs et solidaires en territoires peu denses. Et là, mon regard se tourne vers l'Ardèche, vers Florence Devance, rime riche, vous noterez. Donc, ce livrable, il est sorti en 2020, il y a quelque temps, mais c'est bon de se rappeler que les ateliers vélo, historiquement, ça s'inscrit dans un tissu urbain, mais après 15 ans d'existence, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'ateliers, des ateliers des champs. Voilà. Et j'ai envie de poser quelques petites questions à Florence Devance. Alors, Florence, où est-ce que j'avais mis les questions te concernant ? Du coup, sur le territoire rural dans lequel tu es installée depuis 4 ans, moi, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur la genèse de Pignon Libre.
Oui, avec plaisir. Alors, c'est l'envie de faire un atelier participatif et associatif était dans la tête d'un vélociste au Vence, donc un professionnel du vélo, mécanicien installé dans le village, ce qu'on dit village, pour te répondre, de 2600 habitants environ. Et quand il a senti qu'il allait vouloir arrêter son entreprise, pour multiples raisons que je ne vais pas détailler tout de suite, il s'est dit « je ne peux pas laisser le village sans mécanicien ». Et il a constaté une perte de savoir-faire. En fait, en gros, il voyait de plus en plus de jeunes venir lui apporter leur vélo pour mettre une rustine. Donc lui, il était face à un problème. Il ne peut pas facturer 10 euros à un enfant ou un jeune cette action. Et pour lui, enfin, s'il fait ça toute sa journée, il ne vit pas. Donc voilà, il a constaté qu'il fallait faire quelque chose pour ça. Et il y a 2 ans et demi, il y a aussi eu un local qui a perdu des locataires et qui a eu besoin d'en trouver des nouveaux. Et ils se connaissaient, les deux dont je parle. Donc, il y a eu l'idée de créer l'association pour créer l'atelier tout de suite. On a eu beaucoup de chance, nous, dans la création. On n'avait pas de clavette pour nous aider et on a eu un vélociste qui nous a donné tous ses outils puisqu'il avait, je ne sais pas pour quelle raison, la possibilité de les renouveler. On a eu un local qui s'est proposé à nous de 70 mètres carrés, qui est un ancien garage auto, alors voilà, on est content. Et du coup, il est assez pratique. Et voilà, ça c'est pour la genèse. Et ensuite, on était 6 à l'époque. Et on a créé ensemble tout ce qu'il fallait faire pour créer une association, installer, aménager le local et lancer la communication qui, dans des petits villages, se fait beaucoup bouche à oreille. Donc, ça est progressif.
Merci pour ton témoignage. Je crois que j'aurais envie je crois que j'aurais envie de lire ce que tu m'as écrit quand je te disais comment tu as connu le réseau et qu'est-ce que tu y trouves. C'est super poétique et puis c'est en lien avec le végétal. Et moi, vous l'aurez compris, j'adore les métaphores parce que ça fait rêver et c'est important d'avoir des images qui nous motivent. Tu m'as écrit, Florence, nous, on ouvre un atelier comme on sème une graine et le recyclage, c'est comme la forêt existante qui nous abrite. Qui nous protège.
Oui, c'est sorti tout seul, je n'ai pas réfléchi. Mais oui, j'ai découvert le recyclage un peu par hasard, parce qu'au moment de la création de cette association, j'ai eu envie de participer aux permanences d'aide à la réparation. Et en fait, j'étais vraiment une grosse débutante et je n'avais pas envie de juste écouter ce que me disaient mes copains garçons. Il y avait un peu ce truc-là aussi, j'avoue. J'avais envie de faire par moi-même. Donc, j'ai cherché une formation. Et il y avait des formations de 3 mois, mais il fallait partir de chez soi 3 mois. Enfin, une galère quand on est au fin fond de l'Ardèche. Et j'ai trouvé ces petites formations de 5 jours avec le recyclage. Et je suis rentrée dans un monde que j'ai tout de suite aimé très fort. Et pour moi, c'est un peu ça, le recyclage. C'est une piste d'un... C'est comme beaucoup d'inspiration, c'est du soutien, c'est quand, par exemple, les rencontres, c'est la deuxième fois que je viens, c'est un moyen de rencontrer des gens qui partagent tout ce que je vis avec ce projet associatif et d'avoir donc des retours, des échanges, des témoignages, des inspirations, des conseils, de se sentir moins seul, de trouver assez vite des solutions à nos problèmes. Voilà. C'est un peu ça, quoi.
Merci.
Ce que je n'ai pas retrouvé ailleurs, en tout cas, dans d'autres réseaux.
C'est le moment émotion de notre conférence. J'aimerais juste vous dire quand même, parce que ça, c'est pas très... J'aurais dû vous donner la trame, vous dire que, en fait, on ne va pas parler pendant 107 ans. À partir de 17h, c'est-à-dire dans 10 minutes, il y a un temps où... vous pourrez poser des questions à nos intervenantes et intervenants de la conférence, mais que j'aimerais profiter de cette dizaine de dernières minutes qui restent pour continuer à vous adresser des questions générales. Ça va faire le lien avec cette culture, Florence, que tu décris des ateliers vélo, de le recyclage. Moi, j'aimerais vous poser une question simple, à savoir, qu'est-ce qui se joue au quotidien, selon vous, dans nos ateliers d'autoréparation vélo ? Alors, ça peut être à la fois des anecdotes, ça peut être à la fois de la hauteur de sur les pratiques. Et j'aimerais vous poser cette question à toutes et tous. Florence, je vois que tu as le micro. Est-ce que...
Je pense qu'on peut, on peut pas en dire tellement qu'on peut dire ce qui me passe par la tête tout de suite. Mais là, comme ça, j'ai envie de dire d'aider à ce que les cyclistes ou usagers du vélo puissent se sentir capables de réparer leur vélo. Rien que ça, c'est un pas énorme de s'intéresser à comment être autonome avec la réparation de leur vélo. Ça, c'est un enjeu. Motiver les gens à modifier leurs croyances quand ils se pensent incapables de faire ça.
Et bien entendu, Sylvain, Damien, ne vous sentez pas exclus.
En enjeu, j'avais aussi résisté. Résister, survivre, continuer. C'est pas toujours simple, de rien.
Moi, je pensais à un truc de plaisir dans la transmission et dans le fait que, justement, qu'il y ait lié à ce que tu viens de dire, et de... Quand on voit qu'une personne est venue là et a surmonté cette frustration dont tu parlais, Margot, cette fameuse frustration qu'on a par rapport à des réparations quand on fait de la mécanique et que quand à la fin ça marche et que ça crée vraiment quelque chose qui est très puissant. Ça vous parle ? Quand on a réussi à réparer un truc qu'on ne savait pas faire avant et qu'on l'a fait soi-même en se faisant aider. Et du coup, pour moi, d'animer un atelier, c'est ça qui se joue. Voilà.
Je vais jouer le jeu, mais même si je ne suis pas vraiment dans un atelier. Mais c'est, pour moi, dans vos échanges, alors c'est une vision forcément théorique, hein, mais c'est le bouquin de Matthew Crawford là-dessus, sur le passage de l'intello qui va s'occuper de réparer les carburateurs. Enfin, je pense, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on constate dans le refus des bullshit jobs, se dire le retour à du concret. On a un mouvement qui est en partie fantasmée, mais pas uniquement, de personnes qui refusent de le, qui veulent plus le faire des boulots à la con. Et le boulot à la con, c'est être toute la journée devant des tableaux Excel. Dans le, j'en connais quelques-uns comme ça. Là, on touche à quelque chose de concret. Et je pense que revenir à avoir la satisfaction d'avoir réparé quelque chose, d'avoir remis en état quelque chose, c'est... moi, je ne suis pas du tout manuel, hein, je ne sais pas faire. Mais c'est quelque chose qui est important, qui redonne du sens concret. Et on en a énormément besoin. Donc, je pense qu'à la fin de la journée, quand on a réparé quelque chose, et surtout quand c'est quelque chose de compliqué, parce que si c'est la petite réparation facile, bon, là, on y arrive. Là. Mais quand on s'est sorti de quelque chose, je pense qu'on a une vraie satisfaction et c'est des vrais. Le travail dit manuel, comme s'il n'était pas intellectuel en même temps, c'est quelque chose qui est dévalorisé et qu'il faut absolument revaloriser.
Peut-être juste pour la référence théorique, donc tu fais référence à L'éloge du carburateur de Mathieu Crawford. Voilà. Super bon bouquin pour les longues soirées d'hiver, après avoir réécouté cette conférence incroyable. Dominique ?
Ouais, je voulais. Enfin, du coup, en vous écoutant, ça m'a fait penser, je pense, peut-être un des enjeux des ateliers vélo, c'est la réappropriation. À la fois la réappropriation des savoirs et savoir-faire autour de la mécanique, mais aussi se réapproprier les vélos qui sont jetés ou abandonnés en copro et en fait ne pas les acheter du neuf, mais se réapproprier ce qu'on a sous la main, se réapproprier aussi l'espace public en y roulant, et tout ça en créant de l'émancipation, parce qu'en fait on fait ça nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, c'est aussi en collectif et en se donnant des astuces, en serrant les coudes, et je trouve que ça c'est assez fort.
Bah, peut-être pour rebondir avec tout ce qui a été dit, c'est peut-être un peu la même chose reformulée différemment, mais je pense qu'il y a vraiment la question de reconstituer un rapport avec des objets du quotidien, et c'est aussi ça le fait de réparer dans une société où les objets sont de moins en moins construits pour ça, et dans lequel il y a pas énormément de ressources qui nous sont données pour ça, c'est aussi être un peu plus connecté avec les objets qu'on utilise, comment ils fonctionnent, pourquoi on les utilise comme ça, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec. Voilà. Et dans les ateliers, moi, je trouve qu'il y a un truc aussi de faire vivre une alternative, de faire vivre des possibles dans lesquels on peut pas forcément... on n'a pas toujours beaucoup d'espoir, des alternatives au système, notamment capitaliste, de consommation, etc. Voilà, donc moi c'est ce que j'y trouve en tout cas.
J'en ai un autre à ajouter qui pour moi me permet de tenir aussi, c'est le côté collectif, le sentiment d'appartenance qu'on peut trouver dans un atelier, le côté famille, voilà, on peut trouver plein de mots comme ça, ce que j'ai pu retrouver avec le recyclage encore une fois, et c'est un des enjeux en tout cas dans mon atelier où j'essaye de... Enfin, on essaye ensemble de rendre la chose vraiment le plus conviviale et agréable pour qu'on ait envie de revenir, qu'on se sente part de quelque chose de grand et inciter les gens du coup encore plus à utiliser le vélo et à tenir bon quand il y a des obstacles ou des dénivelés importants. Voilà, je voulais rajouter ça.
Après, il va falloir nous enlever le micro, parce qu'au bout d'un moment, on est là, on se sent de plus en plus à l'aise, on parle des ateliers, on est content, ça va être plus... et moi, j'avais un truc un peu de l'ordre de la résistance aussi, pour dire que c'est pas non plus tout beau et tout parfait et tout rose non plus dans les ateliers, parce qu'on est aussi dans la société, dans le monde, et que du coup, on est traversé par toutes ces contradictions et ces rapports d'oppression, et que du coup, bah, c'est continuer à résister à ce qui va nous empêcher de continuer à être dans un esprit de coopération. Par exemple, on va dire, on est super content quand on a réussi à réparer, mais du coup, il faut quand même résister à la tentation d'être dans la concurrence de qui c'est qui répare le mieux, de qui c'est qui en sait le plus, de continuer à travailler, à renverser les valeurs pour que ce soit pas le plus beau vélo, le plus cher, avec les plus belles pièces qui y gagnent. Enfin voilà, vous voyez cette idée-là, et de résister à, ouais, aux,
aux rapports de concurrence qui peuvent venir continuer à venir traverser nos ateliers via le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme, tout ça, tout ça.
Bah, vu qu'il est 17h et que quand même c'est chouette aussi d'avoir un temps d'échange avec vous tous qui êtes là, on va prendre des questions et il y a un petit micro qui se balade et c'est Céline qui le tient là. Du coup, n'hésitez pas à solliciter la prise de parole.
Bonjour. Je voulais vous demander comment ça se fait qu'on trouve des carcasses de vélos là où on accroche des vélos. Et les vols de vélos, j'ai deux questions, bon, je vais en poser qu'une. Comment ça se fait qu'on trouve des choses qui n'ont pas à avoir lieu ici, des vieilles carcasses et tout, etc. Voilà. Quand on pose un vélo et qu'on trouve une vieille carcasse, est-ce qu'elle ne pourrait pas se faire enlever par la métro, la ville, la région ou par les soins de votre... voilà. Parce que c'est désagréable, c'est très sale, et je trouve que c'est pas normal qu'on désosse les vélos et qu'on laisse une carcasse. Et qu'est... Je peux vous admirer toute Grenoble, parce que je suis grenoblois, et je trouve que c'est pas normal qu'on désosse les vélos et qu'on laisse une carcasse qui traîne des mois, des okay. mois et des mois.
Nous voilà. avons entendu cette question sur les carcasses Merci. De vélos. Merci. Ben, je vais laisser la réponse... à nos témoins de Grenoble.
Bah, y a des carcasses parce qu'il y a des vols et parce qu'il n'y a personne qui les enlève après, mais ça, vous vous en doutiez. Enlever un vélo sur l'espace public, il faut le considérer comme une épave. Donc, il n'y a pas de process réglementaire complètement figé. Donc, il y a toujours un petit risque que le propriétaire il vienne 6 mois après pour vous dire bah, même le cadre, bah, c'est bien. Voilà. Donc ça fait partie en fait du pouvoir de police du maire, donc qui doit demander à la mise en fourrière en fait d'éléments qui sont déclarés épaves. Après, force est de constater que c'est relativement hétérogène. Et il y a un très bon sujet en fait. Voilà, donc c'est, je vous apporte pas de réponse, mais je vous dis c'est un super bon sujet en disant comment on arrive à récupérer ça et notamment à les remettre dans le circuit avec la clavette. Donc voilà, merci pour la question et effectivement on a un projet là-dessus.
Alors, on rappellera qu'il y a un micro.
Ouais, ça se disque très bien, ça, mais ça, vous l'avez remarqué aussi.
Alors, on rappellera qu'il y a un micro pour prendre la parole, comme je l'ai indiqué. Et je vois qu'une personne a un micro, donc on va écouter cette personne.
Une personne qui n'est pas de Grenoble. Bonjour et merci pour tout. Comment dire, j'ai 3 points sur lesquels je voulais intervenir. Bon, d'abord, j'adore ce que vous faites. Je trouve génial ce développement des clavettes, parce que ce n'était pas forcément gagné. Quand on a commencé à parler clavettes au départ, il y avait une certaine inquiétude de voir plusieurs ateliers dans une même agglomération, etc. Et on a développé à le recyclage le slogan que je me dois de répéter ici, « Et s'aimer et s'aimer ». Puisqu'il y a vraiment cet objectif de coopération, et je trouve génial dans les témoignages qu'on a eus, d'avoir eu des témoignages autant sur la coopération qu'on voit au sein des ateliers en termes de mécanique, mais également au sein des clavettes dans un bassin de vie, et puis au niveau national où on voit que tout le monde y trouve aussi de la coopération, et je trouve que, on a une dynamique très très forte dans ce réseau. Qui est pour les collectivités locales à entendre. Je pense qu'il y a une vraie résilience des territoires à travers ce qui est fait dans les ateliers vélo. C'est probablement le meilleur investissement dans le vélo, hein, parce que depuis la création de le recyclage, on a vu passer les Vélib, on a vu passer les vélos en libre-service, on a vu passer les trottinettes électriques, et à la fin, les bons vieux vélos réparés de manière coopérative demeurent et sont toujours les plus efficaces et les moins chers, même pour la collectivité locale quand elle investit dedans. Je pourrais citer une anecdote par rapport au soutien des vélos à assistance électrique à Lyon. Après 200 vélos à assistance électrique ou 2000 vélos à assistance électrique achetés, subventionnés à 500 euros, à la ville de Lyon, Gérard Collomb avait dit « Ah mais stop, ça suffit, c'est beaucoup trop ». Ben oui, ça avait déjà dépassé l'ensemble des subventions qui étaient données par la communauté urbaine à toutes les associations lyonnaises, alors que ça n'avait soutenu que 2000 cyclistes. Donc il y a vraiment un enjeu énorme à soutenir ces ateliers pour la résilience des territoires, à mon sens, parce qu'on n'est pas à l'abri de chocs pétroliers à venir. Mon point suivant, il est vraiment sur comment on va plus loin. Moi, je suis gourmand. Ma silhouette m'a peut-être déjà trahi. Mais j'aimerais aller plus loin. Et je voudrais savoir, finalement, comment on peut réussir à développer ce modèle au-delà du vélo. Alors, il y a des ateliers qui le font déjà. Mais finalement, comment on arrive à mettre en place cet esprit de coopération dans la réparation, dans l'entretien, etc., au-delà du vélo? Est-ce qu'il y a des expériences qui existent? Parce que je me dis qu'il y a une force dans cette dynamique qu'il faut réussir à faire émerger par ailleurs. Et puis enfin, sur la vélonomie, bah, c'est très plaisant quand on crée un néologisme, de voir qu'ensuite il est étudié, qu'il fait sujet de recherche. Pour ma part, il y a un projet avec la cycloficine de Pantin qu'on n'avait jamais réussi à faire émerger, et je le regrette énormément, et ça serait pour moi une idée que j'espérerais voir, notamment pour les quartiers populaires, c'est le voyage à vélo. D'organiser, on avait eu ce projet-là, de dire on emmène des jeunes de Pantin et on les emmène au Mont-Saint-Michel. Et parce que ce que tu disais sur la vélonomie, pour moi, c'est particulièrement quand on voyage qu'on se retrouve face des fois à des problèmes mécaniques qu'on doit gérer seul, et on est vraiment face à cet enjeu-là. Et je trouve que on a mis longtemps à faire l'évasion du cycliste urbain, et organiser des voyages pour des jeunes des quartiers populaires serait pour moi un beau projet. Donc ma question, c'est: est-ce que ça existe pour faire le lien avec des territoires peu denses notamment?
Ok, merci pour cette longue tirade, Julien. Du coup, ta question, il y en a plusieurs. J'en ai entendu deux. Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Là, ça peut être une question qu'on peut adresser à nos témoins de collectivité. Et la deuxième, c'était sur le voyage à vélo dans les quartiers politiques de la ville.
Voilà. Sur le aller plus loin, si la clavette grenobloise a des projets, on sera content de les instruire et de les soumettre aux élus. Donc, j'ai pas plus d'éléments à dire, si ce n'est que, en tout cas, on est attentif et on est heureux d'encourager la clavette. Et pour l'instant, les projets qui ont été soumis, ils ont plutôt bien marché. Donc, allez-y, hein, soyez créatifs. Voilà.
Pour aller plus loin, c'est toutes les démarches autour de la réparabilité des objets qui est lancée aujourd'hui, la responsabilité élargie des producteurs, enfin, qui est elle, de faire en sorte de mettre sur le marché des objets réparables, ce qui implique d'avoir derrière des structures pour les réparer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en est encore qu'au frémissement, hein, là-dessus. C'est pas il y a pas encore un vrai changement de modèle. Mais dans la réflexion, ça, on commence à voir que ça dépasse le cadre du vélo. Alors, il y a des indices de réparabilité qui commencent à être mis en place sur des objets. C'est pas suffisant. Hein, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais on voit qu'il y a quand même une réflexion qui est en train de changer là-dessus. Donc, je pense que si des ateliers s'emparent de ces sujets-là, enfin, il y a pas mal d'ateliers de réparation de l'électroménager qui existent aussi. Donc c'est des démarches qui, à mon avis, effectivement, il faut sortir de ce qu'on sait faire. Plus on est dans des ouvertures où on montre que la réparabilité, c'est un élément important, plus ça va pousser à faire des objets réparables. Mais je ne peux pas dire mieux.
Sur le côté voyage à vélo, Dominique, toi, tu as deux mots à nous dire?
Pour l'instant, ce qu'on fait à petite échelle, c'est des balades d'une journée avec des enfants. Et déjà, juste le fait de passer le périph à vélo, pour eux, d'être dans Paris, c'est un truc incroyable. Alors oui, forcément, quand on voit ce que ça, à quel point c'est stimulant pour LE, on a envie forcément de les emmener en voyage à vélo. C'est un projet qu'on repousse d'année en année, et chaque année on se dit que l'année prochaine on le fait vraiment, parce que même nous ça nous stimule, mais les freins par rapport à ça, c'est un peu l'investissement à long terme, parce que pour faire les choses bien, bah, faudrait suivre un groupe d'enfants, d'ados en particulier, faire d'abord l'apprentissage de réparation, rouler ensemble, etc., préparation du voyage, de l'itinéraire, des sacoches, etc. Et du coup, dans le timing particulier des vacances scolaires, pour réussir à les toucher, et réussir à avoir un groupe qui se tient du début à la fin, presque sur l'échelle d'une année, c'est un peu compliqué. Et aussi, par rapport aux bénévoles de l'association, c'est difficile de dégager un aussi grand temps. Et nous, dans notre association, on a de la chance d'avoir plusieurs salariés, mais en fait, il y a tellement de projets déjà à tenir que voilà, c'est un peu des limites en termes de temps, d'implication et aussi de financement. On n'a pas encore trouvé la formule idéale pour faire financer ça aussi.
Merci. Je vois qu'il y a deux questions ici.
Oui, bonjour, merci pour tout. Moi, je suis là avec deux casquettes. L'une, c'est que je suis bénévole vélo dans un Ripper Café, donc ça répond un peu à la question de tout à l'heure. Où le principe, c'est que ceux qui savent, entre guillemets, font le diagnostic de la panne et aident et incitent la personne qui vient avec cet objet à réparer elle-même. Donc ça, voilà, c'est le principe de base, je dirais, du Ripper Café, mais qui marche bien. La deuxième casquette, c'est que je suis élu dans la commune où j'habite et qui est vraiment une petite commune de moins de 2000 habitants, en milieu totalement rural, avec des habitudes, et notamment par rapport au vélo, enfin, au déplacement, qui font que je rame pour arriver à développer des choses comme ça. Donc je suis vraiment très heureux d'avoir participé à ces journées, parce que ben, voilà, ça me donne quelques pistes et quelques éléments pour... garder l'agnac, on va dire.
Eh ben on est heureux de participer à votre réénergisation. Je vois qu'il y avait une prise de parole devant.
Merci du coup pour tout ce qui a été dit. C'était vraiment très intéressant. Et du coup, moi, la question que je me pose, mais depuis déjà plusieurs années, c'est et c'est peut-être plutôt pour Sylvain. Désolée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, la mécanique vélo, l'autoréparation de vélo, les ateliers d'autoréparation de vélo, malgré tout ce qu'on s'est dit cet après-midi sur tout ce qu'il y a de formidable qui sort de ces espaces, qu'est-ce qui fait que c'est le parent pauvre de l'écosystème vélo, quand bien même on a certes tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais même des études qui nous le disent, la dernière étude service vélo, la dernière enquête service vélo de 2022 qui nous redit que c'est le service le moins cher pour la collectivité, potentiellement le plus efficace à bien 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 des égards, et pourtant, et surtout comme l'a rappelé aussi Margot, on est toutes et tous confrontés un jour à la panne, etc. Il faut pouvoir entretenir. Qu'est-ce qui fait que...
J'ai pas la réponse comme ça. Je peux que donner des éléments. C'est mon interprétation personnelle. Moi, je viens pas du monde de la mobilité, ça a été dit. C'est un monde que je découvre. C'est un monde qui a été gouverné par les infrastructures globalement. Donc, on est quand même sur un univers où la plupart des intervenants dans ce secteur-là, c'est des gens qui faisaient des routes. Qui faisait des infrastructures, et du coup c'est il y a aujourd'hui encore, et on l'a entendu et je l'entends partout, la réponse c'est faire des infrastructures. Pour si on veut développer le vélo, faut faire des infrastructures, et on reste dans une logique d'ingénieur. C'est fondamentalement, alors, et c'est vrai, hein, enfin je dis pas qu'il faut pas en faire, hein, mais c'est une réponse qui est la première réponse. Par exemple, quand on parle des quartiers prioritaires de la ville, je ne suis pas sûr que ce soit la première réponse. C'est mon intuition. Je pense que pour les quartiers politiques de la ville, il y a un peu la question de la représentation qu'on se fait du vélo aussi, les personnes qui sont. C'est pas forcément un manque d'infrastructure, c'est le fait qu'il y a un effet uncool par rapport au vélo. C'est pas terrible de faire du vélo au bout d'un moment parce que c'est connoté. Enfin, et c'est peut-être pas forcément de faire une belle piste cyclable qui va donner envie de faire du vélo dans ces quartiers-là. Il y a cet effet-là, je pense. Il y a l'effet aussi, on en parlait avec mon voisin, de la question de... c'est beaucoup plus... On met plus l'accent sur la fabrication, sur l'investissement, que sur la réparation. C'est vrai dans tous les domaines. On a parlé des ponts, des infrastructures américaines, mais en France, là encore, on est en travail dans le domaine de l'eau, l'infrastructure en eau. Ça fait des années et des années qu'on fait des rapports pour dire que les canalisations sont à remplacer et ce n'est pas fait. Donc on est beaucoup plus sur de l'investissement que sur de l'entretien. On affiche les ventes de vélos. On n'a pas d'indicateur sur les vélos réparés.
Peut-être Damien, est-ce que toi tu veux compléter ?
Si je peux me permettre, très rapidement, moi je veux être optimiste et je pense que en fait la solution réside aussi dans différentes choses à additionner. Par exemple, il y a quand même maintenant dans nos écoles, enfin moi dans ma petite école de village, tous les ans les enfants passent par un cycle d'apprentissage du vélo. Donc ça, et ça se fait maintenant parce que le savoir-faire vélo rentre dans les écoles au même titre que le savoir-faire piscine, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'espère que ça va. Voilà, ça, on va aller aussi dans le bon sens. Et c'est toutes des politiques complémentaires. Et c'est vrai que bon, moi, quand on va sur les territoires, on nous dit quand même que si on n'a pas une piste sécurisée, c'est un gros frein au fait de passer à vélo, au fait de laisser son gamin aller au collège tout seul à vélo ou à l'école, etc. Donc c'est pas une chose contre l'autre, c'est un ensemble de choses qu'il faut faire, qu'il faut mener ensemble pour arriver effectivement à ce que tout se passe mieux en termes de vélo.
Je n'oppose pas, hein, c'est là-dessus, je dis que simplement le curseur, il est plus mis du côté de l'infrastructure que du reste. C'est pas une opposition, il en faut. Hein, la première réponse, c'est faut faire de l'infra. Mais on pense beaucoup moins au reste. C'est ça que je veux dire.
Une phrase pour complètement vulgariser le truc. Au Moyen-Âge, on marchait, on se balade à cheval. Après, il y a le service des postes qui s'est dit, et puis on s'est dit, tiens, il livre du courrier pour livrer des gens aussi. On a commencé à inventer les transports en commun dans les années 1800. Tout le monde s'est mis au transport en commun. Ici, vous aviez des tramways qui montaient dans la montagne. C'est un truc simplement incroyable. Et puis après, il y a eu la voiture, et on s'est dit, mais en fait, la voiture, c'est l'outil du futur, c'est absolument génial. Donc on a démonté les tramways, et tout le monde s'est mis en voiture. Et puis au bout dans les années 70, on s'est dit, il n'y a plus de place. En fait, on refait des infras, tout le temps des infras, et c'est tout le temps bouché. On s'est dit, on a une bonne idée à Grenoble, on a réintroduit le tramway moderne qu'on avait démonté 40 ans avant. Donc on a fait du tramway en disant, on va transporter tout le monde en transport en commun, c'est super, c'est populaire, c'est génial. Et puis là, on arrive à un moment où financièrement, en fait, c'est un peu compliqué quand même, parce que les transports en commun, ça consomme beaucoup d'argent public. Et puis, il y a un moment quand on met plein de bus dans une rue, on se dit, c'est pas hyper vivable. Et voilà, en tant qu'observateur des mobilités sur le territoire, je pense qu'on va vivre dans les prochaines années la ville marchable et la ville du vélo. Et ça va être le mode d'avenir. Et si on prend des villes qui sont très cyclables aux Pays-Bas, la part des transports en commun elle est un petit peu plus modeste que, par exemple, ce qu'on a à Grenoble. Et juste, je citerai le maire de Copenhague qui avait été interrogé sur son plan vélo à 350 millions d'euros. On lui dit « mais c'est pas un peu fou de dépenser autant pour faire la bicyclette ?» Et il avait dit, en fait, c'est la chose la plus sensée que j'ai jamais fait de ma vie, et je comprends que les autres ne fassent pas pareil. Donc je pense qu'on est dans ce moment de transition. Voilà. C'est beaucoup vulgarisé, hein, je suis désolé.
Moi, je voulais juste rebondir sur la question pourquoi les ateliers sont les parents pauvres des organisations vélo. Je pense qu'il n'y a pas de démarche managériale dans les ateliers. Enfin, regardez-vous. Vous n'êtes pas des banquiers. Je pense que il y a une forme d'incompatibilité entre l'idée de faire ce travail très ingrat, de réparer des vieux biclous, de vraiment les prendre un par un, de vraiment faire les choses d'une manière qui est très très adaptée au territoire. Et en fait, je pense que l'exemple de la clavette, elle part d'une démarche de décroissance qui est que c'est des ateliers qui n'ont pas voulu croître, qui n'ont pas voulu entrer dans un système où ils allaient avoir des filiales, c'est rare les ateliers qui essayent de réparer tous les vélos de France, tous les vélos du monde. Et en fait, bah, c'est ce genre de choses qui donne du pouvoir, qui donne du prestige, qui donne de la crédibilité, etc. Donc voilà, moi je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez logique dans le fait que, bah oui, ça peut être frustrant d'essayer de faire d'aller voir des institutions, d'essayer de faire valoir l'importance immense de ce qui est fait dans les ateliers. Mais pour moi, c'est pas illogique, quoi, que les ateliers soient pas les stars de la vie et tous hyper riches, quoi. Ça serait pas compatible avec le fonctionnement.
On va prendre deux dernières interventions, donc une ici et puis une à ma droite.
Je constate dans tout ce qui a été dit qu'il y a quand même un problème, je dirais, d'éducation, c'est-à-dire qu'on fait la part belle à la compétition, alors que je pense qu'il faudrait faire plutôt la part belle à la considération des autres et de tout ce qu'on peut entreprendre ensemble.
Je pense qu'on est 100% d'accord avec vous. Est-ce que parmi les témoins, quelqu'un veut rebondir ? Ou alors est-ce qu'on laisse une dernière intervention là avant une clôture ?
C'était juste un petit commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. S'il y avait des moyens dans les ateliers vélo, il y aurait peut-être plein de filiales une filiale nationale qui ferait plein d'ateliers vélo et il y aurait des sous à aller chercher, donc il y aurait peut-être une grosse structure nationale qui se structurerait. Donc est-ce qu'on aurait encore de la place, nous, en tant que petit asso? Donc c'est sûr, bien sûr, on galère en tant qu'asso financièrement. On aimerait bien trouver la bonne façon de communiquer avec les institutionnels pour vraiment leur faire ressentir le besoin de nous aider financièrement. Mais ouais, c'est un petit peu comme... le bouquin de Corinne Morel-Harleux, quoi, c'est que nos assos, elles ont parfois tendance à couler en beauté plutôt que de flotter avec plein de moyens, quoi. C'est un peu la galère, mais dans la beauté de la solidarité et du faire ensemble.
Est-ce que vous voulez rebondir ? Ou est-ce qu'on rappelle qu'il y a quand même les... Pour discuter avec les collectivités territoriales, il y a quand même les super livrables du réseau. Hein. C'est un peu le fil conducteur de cette conférence. On rappellera un guide sur les territoires peu denses, un guide sur les ateliers vélos dans les quartiers politiques de la ville et enfin un guide sur les clavettes. Juste un mot hyper important, parce que on a beaucoup parlé de ce qui se joue au quotidien, ce qui se passe dans les ateliers vélos. Vous en voulez encore ? Ça a attisé votre appétit ? Eh bien, je vous invite à courir, découvrir l'atelier des miracles, les activités cachées d'un atelier d'autoréparation de vélo et de couture, publié par Benjamin Pichot-Garcia, à la très célèbre maison d'édition basée en Dordogne, qui s'appelle Les Trois Canards. Vous ne la connaissez pas, c'est normal. Je crois qu'il est prévu, pour clôturer notre conférence, un petit buffet, si je ne me méprends pas. Et donc, oui, c'est bien ça. Et donc, je ne sais pas exactement où a lieu ce petit buffet, si quelqu'un de la ville peut nous donner l'information. Cette information est bienvenue. Ok, par là-bas. D'accord, merci. Alors, juste, on remercie...
J'adresse vraiment mes plus vifs remerciements à Dominique Carnot, à Sylvain Rotillon, à Damien Cottreau, à Marie Ménager, à Florence Tassard-Dévance et à Margot Abord de Châtillon. C'était super de vous avoir sur cette table ronde. Merci. Ok, alors le buffet est dans le salon d'honneur. Donc le salon d'honneur est juste à côté, juste là. Merci, et merci aux techniciens, aux techniciennes de la ville.